Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, voici le libre journal de Serge de Bekech, assisté de Victoria, un document du 16 mars 1994. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris. Attention, exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris.
Bonsoir à tous. L'actualité est intéressante. Elle est pleine de surprises en plus. Je peux dire vraiment, moi j'étais abasourdi d'apprendre, de voir confirmé par le mini-journal de Victoria une information que j'avais déjà lue dans la presse du soir. L'immunité parlementaire de Michel Noir n'est pas levée. Je suis stupéfait. Je croyais que je suis très étonné. Pas vous, ça vous étonne pas?
Non.
Vous attendiez à ça?
En ce moment, tout est possible. On pense quelque chose, on se dit ça va être le contraire.
Vous êtes fine mouche.
Voilà.
Êtes fine mouche.
Voilà comment nous sommes, nous autres.
Franchement, de voir les parlementaires voler au secours de l'un d'entre eux, c'est extraordinaire. C'est tout à fait étonnant. Ça s'était déjà produit pour M. Tapie, d'ailleurs, curieusement. Et c'est vrai que, d'ailleurs, il faut bien reconnaître que quand la justice ose, certains juges osent présenter des dossiers contre des gens aussi irréprochables, aussi incontestables, aussi
des modèles
insoupçonnables que M. Tapie est noir, M. Tapie noir. Il n'y a pas l'ombre d'un doute que, comme dit Monsieur Noir qui s'y connaît, c'est une affaire d'État. C'est une magouille, c'est quelque chose de politiquement manipulé. Vous voyez? Vous m'écoutez quand je vous parle, Victoria?
Je n'écoute
pas. Non, parce que
vous.
Si vous m'écoutez pas, moi j'ai l'impression que les auditeurs m'écoutent pas non plus. Et là, on va passer de la musique. Non?
Mais non, pas du tout.
Et donc, effectivement, quand on a des gens aussi, des modèles de vertu, comme M. Noir ou comme M. Tapie, on s'étonne que la justice puisse ne serait-ce que penser à les poursuivre. Parce que, au fond, suivez-moi bien, les poursuivre, c'est supposer, même de très loin, qu'ils pourraient être coupables de quelque chose. Or, par définition, M. Noir ne peut pas être coupable de quelque chose, puisque il dit lui-même qu'il est honnête. Or, il est maire, il est député, qu'est-ce qu'il est encore? Enfin, il y a plein de trucs. Non, il n'est pas député.
Il est maire.
Il a été député.
Oui, il fut.
Bon, donc il ne peut pas être menteur, ça c'est parfaitement clair. Un homme qui est l'élu du peuple ne peut pas être un menteur. Donc quand il dit qu'il est honnête, il est honnête. Et je vais vous dire à quel point d'ailleurs il est honnête. Les révélations de l'Express, vous savez que l'Express, à l'origine des ennuis de Monsieur Noir, il y a la publication d'un article dans l'Express qui explique que Monsieur Noir aurait utilisé, conditionnel en italique avec des guillemets, aurait utilisé à des fins personnelles des fonds publics versés sous la forme de, par la municipalité de Lyon dont il est le maire, à une association dont il était le président, qui s'appelait Lyon Autrement, Vivre à Lyon, Vivre Demain à Lyon, Avant-Hier à Lyon, je ne sais plus, enfin un truc comme ça. Et il aurait utilisé cet argent-là, qui était destiné à payer des associations, il l'aurait utilisé à des fins personnelles. Ben oui, il est député, bien sûr.
J'avais des doutes, alors. Mais...
Donc il l'aurait utilisé à des fins personnelles. Comment peut-on croire une chose pareille de la part d'un homme qui nous a dit qui préférait perdre les élections plutôt que perdre son âme. Hein, c'est lui qui avait dit ça.
Mais il
aurait perdu son âme en acceptant de considérer que le Front National était un parti comme les autres avec des êtres humains à bord. Donc il s'est gardé de perdre son âme, et en plus il a même pas perdu les élections, donc il a gagné sur toute la ligne. Parce que s'il avait perdu les élections, il aurait perdu du fric, vous comprenez, c'est ça. Donc c'est pas un monsieur intéressé. Bon, vous allez me dire que c'est vrai que son gendre lui achetait des beaux vêtements.
Ah, oh, quel malheur d'avoir un gendre.
Quel malheur d'avoir... Il avait quand même ce monsieur noir qui était une âme parfaitement cristalline, translucide. Il se baladait avec un manteau de 80 000 balles sur lui, quand même. 80 000 francs, c'est-à-dire 8 millions de centimes, vous saviez ça? C'est vrai que quand on fait 2 mètres 10, il faut du métrage. Mais, non, mais voilà, c'est pour vous dire. Un homme qui est bien habillé comme ça, qui est député, parce qu'il est député, et qui est maire, ne peut pas être malhonnête. Il faut que ça soit bien compris une fois pour toutes. Et quand vous regardez monsieur Tapie, c'est pareil. Il est bien coiffé, il a une belle tronche. Il est toujours bien habillé avec des grands costumes. Vous savez, ça fait penser un peu à Chicago des belles années, comme ça, des costumes. On sent le tissu léger qui se tient, ça flotte, tout ça, avec des pompes bicolores.
Oui, c'est très joli. Oui.
Et donc, un monsieur comme ça, voilà, il peut pas être malhonnête. Donc, monsieur Seguin, dans sa grande, comment dit-on, lucidité, a dit, mais c'est pas possible. L'Assemblée nationale ne peut pas envoyer ses pairs, les parlementaires ne peuvent pas envoyer leurs pairs, P-A-I-R-S. Hein?
Mais
devant
raconté,
quoi?
Il n'a pas dit ça, Michel Noir.
Non, mais c'est ce qu'il... C'est l'idée, c'est le contenu.
Il a dit,
bien sûr...
Nous, ça ne nous regarde
ça
pas.
Ça ne nous regarde voilà, pas, c'est ça, oui, ça. Chante Fifi.
Je m'en lave les mains.
Donc, maintenant, les députés savent que, quoi qu'ils fassent, l'Assemblée nationale ne lèvera pas leur immunité. C'est quand même confortable. Ils vont pouvoir continuer, vous voyez? Parce qu'ils sont peut-être pas tous aussi honnêtes que M. Noir, que M. Tapie. Il y a peut-être des députés qui sont... je dis peut-être, je sais pas, il faut voir. Peut-être pas totalement irréprochables, allez savoir. Et donc, ils savent maintenant ceux-là qui peuvent y aller, puisque pas de question de levée d'immunité. C'est bien. Je trouve. Alors en plus, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que quand c'est la justice qui les poursuit, ils se mobilisent tous pour dire « pas touche ». Pas touche la justice. On est des députés. Foutez-nous la paix. Laissez-nous faire nos affaires. Bon. Alors la justice s'en va sur la pointe des pieds en disant excusez-moi. En prime, on injurie la justice. Monsieur Noir dit, il y a un magistrat à la chancellerie qui commet une forfaiture. Bon. Et la chancellerie s'écrase. Moi, si je dis il y a un magistrat à la chancellerie qui commet une forfaiture, boum, bâton. Mais monsieur Noir, il peut y aller. Et quand c'est sur le plan politique que ça se passe, qu'est-ce qu'ils disent ces gens-là? Pas touche les places. Pas touche, parce que ces places, elles sont à nous. Il n'est pas du tout question que M. Perra à Nice devienne député. Nice, ça appartient à notre territoire. C'est notre territoire. C'est là que nous gagnons notre fric. On n'allait pas nous le piquer. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Alors, il y a la bande à Jacques, la bande à Valérie, la bande à François et la bande à Georges. Ils se mettent d'accord. Et ils disent... On est tous unis contre le gars qui veut prendre la place. Vous voyez? C'est comme ça que ça marche la politique en France.
T'intéresse.
Et du coup, vous avez monsieur Baretti, qui est en quelque sorte le juge de paix. Il est désigné par les quatre bandes pour empêcher qu'il y ait un type qui vienne sur le territoire. Vous voyez? C'est le contrôle des machines à laver, le contrôle des lavomatiques, on appelle ça, les contrôles des salles de jeu, le contrôle de la distribution des bonnes bouteilles, tout ça. Maintenant, on sait, ça appartient à la bande. Alors après, ils vont s'arranger maintenant pour la redistribution à l'intérieur du truc. Ça va être compliqué. J'ai dit Georges, mais c'est pas Georges, c'est U. Comment il s'appelle? Quel est son prénom?
Robert.
Voilà. Moi, j'aimerais bien que la politique change un peu en France. Vous voyez, quand il y a des moments où on a l'impression de se salir la bouche en parlant.
Eh oui.
Alors, bon, on va voir. De toute façon, pour se changer les idées, et puis pour respirer un peu, j'ai invité quelqu'un qu'on reçoit d'ailleurs très peu souvent, finalement, dans cette émission, et je m'en navre. C'est Karl Lang, qui est secrétaire général du Front National.
Bonsoir, Serge.
Bonsoir, Karl. Alors, bon, j'ai déjà évoqué rapidement l'affaire Baretti, le score, d'ailleurs exceptionnel, il faut bien dire, parce que tout le monde dit le Front National a été battu. Mais il faut quand même noter une chose, c'est que le Front National est un petit parti sans moyens, etc., etc. Sans cadre, nous dit-on, sans moyens, sans médias, sans rien, en face de l'énorme machine, de la puissantissime machine des partis installés depuis 50 ans, qui craquent littéralement sous pognon, qui ont devant eux à plat ventre les journalistes, les radios, les télévisions, tout le monde, il fait 44% quand même. Et l'autre, avec tout le système, avec les communistes, avec les voix communistes, avec les voix socialistes, avec les voix écolos, avec les voix des muets, avec les coups de main des manchots et le transport des culs de jatte, il fait 56%. Je me dirais, c'est comme ça qu'il est élu. Mais enfin, c'est une défaite qui est honorable, on peut dire. Et d'ailleurs, la meilleure preuve que c'est une défaite honorable, c'est que personne ne l'a présenté comme ça. Parce que les gens auraient pu dire, eh ben, il faut quand même se faire du souci. Les radios, les télévisions, tout ça auraient pu dire, il faut quand même se faire du souci. Parce que, avec toute la coalition de toutes les forces, on pouvait s'attendre à faire 80% et que Peyra soit dans la luzerne avec 20%. Mais non, on fait 56% et Peyra fait 44%. C'est-à-dire qu'en réalité, si Peyra arrive à arracher 7% de l'énorme masse des imbéciles qui ont voté pour Barretti, il a gagné. C'est-à-dire s'il arrive à éveiller 7% des endormis, parce que entre nous, un type du RPR qui a voté Barretti au premier tour, je peux le comprendre. C'est après tout, c'est ses idées, chacun a le droit d'avoir ses idées. Mais au deuxième tour, quand il recommence, en sachant qu'il va voter pour le même type que le Parti communiste et que le Parti socialiste, faut vraiment que ça soit un crétin. Je suis désolé de le dire dans des termes aussi brutaux, mais c'est un vote de crétin. Hein? Quant à l'UDF, j'en parle pas.
C'est un homme qui rassure la bourgeoisie, on
qui
m'a dit.
Qui
Monsieur Barretti. Quelqu'un m'a dit ça.
Oui, c'est vrai. Après les numéros de fauves au cirque, généralement, pour rassurer les enfants, on fait passer un clown sur la piste. Voilà. Alors, Karl, j'étais un peu long là-dessus, mais je voulais en venir à ça. La bonne presse a naturellement tout de suite expliqué que c'était la rupture bête et brutale maintenant entre Peyra et le Front National. Alors là, de la bouche du cheval, si j'ose dire, qu'est-ce qu'il en est?
Bien sûr, il n'en est pas question. Jacques Peyra a réalisé un superbe score compte tenu de ce que vous venez d'indiquer. En effet, face à la coalition de dernière minute rassemblant du Parti communiste, Parti socialiste, écologiste, UDF-RPR, nous réalisons 44% des suffrages. Cela permet de rappeler en effet que quand il y a une menace d'un candidat national, eh bien la bande des quatre, le gang des quatre, comme dit Jean-Marie Le Pen, défend ses intérêts et défend sa clientèle. Il est bien évident qu'un député de plus à l'Assemblée nationale du RPR et du UDF ne change rien, alors qu'un député du Front National, parmi tous les autres, aurait changé beaucoup de choses. Alors on ne veut surtout pas permettre à la droite nationale, à l'opposition nationale d'exister. En aucun cas, il n'est concevable pour ce système en place et pour cette bande en place d'accepter que quelqu'un vienne défendre les intérêts du peuple français, vienne défendre l'identité française, vienne défendre l'opposition nationale et les intérêts du pays. Alors cependant, je crois qu'il y a un autre élément de réflexion, c'est que là nous avons assisté à une élection de scrutin majoritaire à deux tours. Mais si nous obtenions les mêmes résultats dans le cadre d'une élection municipale, ce sera le cas l'année prochaine, eh bien dans ce cas-là, du fait de la proportionnelle, Jacques Peyra peut être le maire de Nice et la liste du Front National pourrait prendre la mairie, car il n'est pas concevable l'année prochaine qu'au second tour, eh bien les socialistes puisse faire liste commune avec le RPR, l'UDF. Ça, c'est celui qui arrivera en tête, qui gagnera la mairie, qui prendra la mairie. Donc je crois que c'est, comme l'a dit le président du Front National, un succès encourageant pour le Front National, car il nous laisse dans la course à l'élection municipale, et nous sommes probablement aujourd'hui les favoris pour prendre la mairie de Nice avec Jacques Peyra. Jacques Peyra est un homme qui est un ami du président du Front National depuis 40 ans, qui est au Front National depuis des années, qui a été député en 86, conseiller régional, qui est actuellement conseiller général du Front National, conseiller régional du Front National. Il n'est pas concevable en aucune manière qu'un homme comme Jacques Peyra puisse quitter le mouvement national.
Alors, il y a une autre question que pose quand même cette élection de Nice, moi, qui me taraude un peu, et pas d'aujourd'hui, c'est pas à cause de l'élection de Nice qu'elle me taraude, ça fait un moment que je me pose la question. Est-ce que les électeurs français sont pas majoritairement des imbéciles? Parce que on a quand même le droit de s'interroger sur le comportement d'un électeur qui, dans la situation actuelle, alors qu'il est démontré que les socialistes qui ont gouverné ce pays pendant 12 ans l'ont conduit à la faillite à peu près totale, en comparaison avec les autres pays d'Europe, c'est évident, que ceux qui l'avaient gouverné avant avaient préparé cette faillite, que ceux qui ont gouverné à titre intérimaire pendant sous la forme de la cohabitation, n'ont rien fait pour redresser le terrain, que sur tous les plans, sur le plan de l'immigration, sur le plan de la sécurité, mais surtout sur le plan de l'emploi, sur tous les plans, l'échec est total, que 15 jours avant les élections, on tire un député comme un lapin, que au moment même où se passent les élections, dans toute la France, les banlieues s'embrasent sous la poussée des jeunes. Enfin, véritablement, c'est un constat d'échec formidable. Il se trouve encore 56% de citoyens, électeurs, pour aller mettre dans l'urne un bulletin par lequel ils en reprennent encore. On n'en a pas encore assez. On veut encore plus d'immigration, on veut encore plus d'insécurité, on veut encore plus de chômage, on veut encore plus d'impôts, on veut encore plus de bordel généralisé, et on vote pour Monsieur Baretti. On vote pas pour Monsieur Baretti, on vote pour les responsables de la catastrophe qui, depuis 25 ans, se partagent le gâteau. Alors, on peut se poser la question, quand même, de savoir s'il n'y a pas une formidable méconnaissance des réalités de ce pays dans la population. Est-ce que les gens sont aveugles? Est-ce qu'ils veulent être aveugles et sourds?
Non, je crois que le problème qui se pose est celui du pouvoir médiatique. Dans une démocratie moderne, le pouvoir médiatique est une chose considérable. Or, le Front National a un handicap majeur, c'est qu'il est exclu du système d'information d'État, du système d'information nationale, et à l'exception de Radio Courtoisie et de quelques journaux amis, nous n'avons pas le droit à la parole. Alors que notre mouvement représente des millions d'électeurs, que Jean-Marie Le Pen a obtenu 4,5 millions de voix en 1988, nous sommes délibérément, c'est un mot d'ordre, syndical, politique et des groupes de pression exclus du système médiatique. Et dans ces conditions-là, il est évident que le pays et les électeurs ont bien du mal à s'arracher à la propagande d'État, à la propagande médiatique, à l'information qui a tendance à les conditionner. Et puis, ils doivent aussi résister aux procédures de diabolisation du Front National que nous connaissons depuis des années. Nous assistons donc soit à la méthode de diabolisation, et soit à la méthode d'occultation du Front National. C'est donc face à cette situation-là que nous avons réalisé depuis 10 ans, cependant, une progression considérable. Et finalement, les Français qui votent Front National aujourd'hui sont ceux qui ont pris conscience de ce que vous indiquiez tout à l'heure concernant le bilan catastrophique économique, social et politique du pays, mais qu'ils ont pris conscience aussi que seul le Front National était aujourd'hui une force de recours, était capable de mettre en place une autre politique. Ils devront vaincre un certain nombre de résistances et ils devront dépasser le conditionnement médiatique, le véritable lavage de cerveau médiatique dont ils sont victimes à longueur d'onde de radio et de télévision.
Karl Lang, c'est vrai, mais dans le même temps, ces gens nous disent on ne croit pas les journaux, il suffit de regarder les sondages, quand on leur pose la question, croyez-vous ce que dit la presse? Non, non, pas du tout, la presse ment, la télévision nous raconte des cracks, la radio dit des bêtises, les hommes politiques sont des menteurs. Donc, d'une part, ils disent on ne croit pas du tout ce qu'ils racontent, et d'autre part, ils sont prêts à avaler n'importe quel calembre d'aine. Quand on leur dit que le Front National, c'est l'Internationale Brune, comme ça a encore été fait hier soir dans une émission de télévision, qui n'est pas une émission de télévision, qui est une émission de propagande pure. C'est,
sur Arte. Savez,
tout est, alors Dieu merci, personne ne regarde Arte, mais c'était quand même rigolo de voir. C'est de la pure et simple propagande. L'avant-veille, dimanche, il y avait sur la 3, dans l'émission Planète Chaude, une autre émission qui était d'ailleurs formidablement faite, qui est une émission de pure et simple propagande, qui nous disait... En clair, préparez-vous, les intellectuels algériens vont arriver en France parce que pour eux, maintenant, c'est l'Algérie, c'est plus possible, et il faut les accueillir, et regardez comme ils sont formidables, et on a eu 1h30 de reportage, je le dis, extraordinairement adroit, sur une famille algérienne présentée comme exemplaire, alors qu'elle était totalement atypique, puisqu'il s'agissait d'Algériens francisé à 100%, extrêmement cultivé, de la haute bourgeoisie algérienne. Elle devait être médecin, divorcée de son mari, vivant dans un appartement dans la banlieue d'Alger, s'exprimant dans un français choisi, une jolie femme avec des enfants superbes et tout. Et on était vraiment porté à avoir de la sympathie pour ces gens-là. Et je suis sûr que le public qui regarde ça se dit, bah oui, après tout, ils peuvent très bien s'intégrer. Ils seraient d'ailleurs certainement beaucoup mieux intégrés en France qu'ils ne le sont en Algérie. Jusqu'au moment où on interroge le père qui est séparé de sa femme, et qui dit « Mais moi, je fais pas de politique. Moi, j'ai arrêté de faire de la politique quand on a gagné la guerre de l'indépendance. J'étais dans le FLN, etc. » Autrement dit, on vient nous expliquer « Vous voyez, ces gens-là, ils sont formidables, ils sont très bien intégrés, et il faut les laisser venir en France. Hein. » Moyennant quoi, on va inviter à se réfugier en France un type qui, il y a 30 ans, égorgeait les Français et leur disait « Vous avez le choix entre la valise et le cercueil. » C'est ça qu'on est en train de nous vendre. Je dis que cette télévision est une télévision de pure propagande, qu'elle diffuse à jet continu, et que, alors pour en revenir à ce que je disais, l'extraordinaire, c'est que les mêmes gens vous disent « on nous ment à la télévision » et avalent tout rond cette propagande.
Oui, j'ai le sentiment cependant qu'il faut rester confiant et optimiste. Pourquoi ? Parce que les succès politiques du Front National répondaient à la nécessité que soient réalisées deux étapes. Première étape, c'était l'effondrement de l'idéologie de gauche marxiste-léniniste sous toutes ses formes et la démonstration de son échec. Nous sommes arrivés à cette situation au cours des années 80 avec l'explosion de l'Empire soviétique, la désintégration de cette idéologie marxiste et révolutionnaire. Donc le constat, premièrement, de l'échec de la gestion de gauche et des pouvoirs de gauche. Deuxièmement, la deuxième étape nécessaire, c'est la prise de conscience de l'échec des politiques libérales. Nous sommes aujourd'hui en train d'observer, les Français sont en train de prendre conscience de cette situation de désintégration économique, sociale et politique et d'échec total du gouvernement Balladur dans tous les domaines. Que ce soit Balladur ou Bérégovoy, rien ne change, ou plutôt si, tout empire. Donc, face à ce double échec, la première attitude de l'électorat français est une attitude de repli, est une attitude d'abstention. Mais l'abstention précède et prépare le vote de reconquête et le vote de redressement qui sera le vote Front National. On ne peut pas faire passer d'un mouvement national comme le nôtre de 1%, comme nous l'étions en 1982, à 10, 12, 14% comme nous sommes aujourd'hui, sans franchir des étapes. Ça ne peut pas se faire par un claquement de doigts. Ce que nous avons réalisé en 10 ans est exceptionnel. Et ce, je le rappelle, contre l'ensemble des forces du système, qu'il s'agisse du système politique en place et des intérêts partagés, bien entendus et bien répartis au sein de cette bande des quatre, qu'il s'agisse du système médiatique ou qu'il s'agisse des puissances financières qui en aucun cas, ou internationales, qui en aucun cas ne peuvent accepter que se développe en toute quiétude la droite nationale, qu'elle soit française ou qu'elle soit européenne. Donc je crois que, au contraire, la montée en puissance du Front National, la prise de conscience des Français est encourageante et la situation et l'échec de l'ensemble de cette classe politique ouvre la voie pour demain au Front National.
Est-ce que vous ne croyez pas, Karl Lang, qu'il y a quand même un problème, j'en reviens à ça, un problème d'information, d'image, de communication d'image. Je me souviens que quand la haute autorité a été créée, les communistes sont arrivés en disant « Bon, écoutez, nous, on représente une force politique, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas représenté à la télévision. » Et immédiatement, dans les journaux de la télévision d'État, on a vu apparaître des journalistes communistes qui étaient là en tant que tels, en tant que journalistes communistes, pas en tant que journalistes accessoirement membre du Parti communiste, mais en tant que journaliste représentant l'opinion du Parti communiste. Or, à l'heure actuelle, c'est le CSA. Non seulement, bien évidemment, il n'y a pas un journaliste Front National à la télévision, dans les radios et même dans la presse écrite, en dehors des journaux du système, je veux dire, de la famille, mais bien évidemment, toutes les initiatives du Front et toutes les annonces du Front sont systématiquement boycottées et censurées, vous le savez très bien. Alors est-ce qu'il n'y aurait pas une position à prendre, qui serait une position de principe de la part du mouvement, en disant, écoutez, il n'y a aucune raison, quand on voit que M. Jean-Luc Manot, qui est un militant communiste, enfin qui était un militant communiste, il dit qu'il ne l'est plus, mais bon, on est bien obligé de le croire. Monsieur Manot est directeur de l'information de France 2, France 3, c'est absolument incroyable qu'un garçon qui a été communiste, qui a donc été un tenant d'une idéologie totalitaire, dépendant d'une puissance étrangère, puisse aujourd'hui occuper un poste aussi important, s'il n'y a pas une contrepartie, s'il n'y a pas en quelque sorte une balance qui permettrait un équilibre, un rééquilibrage, qui permettrait à des gens du Front National, je parle pas pour mon compte personnel, puisque je ne suis, je le répète, contrairement à ce qu'on croit comprendre certains auditeurs qui écoutent mal, je ne suis pas membre du Front National. Je le dis et je le répète à chaque fois, pour des raisons personnelles, parce que je veux pas que ce que je dis puisse être porté au crédit ou plutôt au débit du mouvement. Donc, je ne parle pas pour moi, mais il y a beaucoup de journalistes de qualité dans notre famille qui devraient avoir le droit de s'exprimer. Est-ce que vous ne croyez pas que le Front devrait ouvrir une campagne auprès du CSA en disant « c'est pas supportable cet ostracisme, il est scandaleux, c'est une injustice et elle n'est pas tolérable ».
Oui, nous ne vivons pas en démocratie, ceci doit être parfaitement clair, car au-delà des déclarations, des bons sentiments, des références permanentes aux droits de l'homme, en oubliant les droits du citoyen, mais justement, les citoyens français ou certains d'entre eux n'ont plus de droits, et en particulier pas le droit à l'information, pas le droit de défendre leurs idées comme il serait légitime et naturel de le faire. C'est vrai que nous sommes dans un système confisqué tant dans le domaine de l'information que dans le domaine institutionnel. Car ce qui est vrai pour l'information dont vous venez de parler est vrai aussi pour les institutions, car avec des millions d'électeurs, le Front National, compte tenu des modes de scrutin électoraux comme le scrutin majoritaire à deux tours pour les législatives, n'a pas le droit d'être représenté. C'est-à-dire que les 3 millions de vos électeurs du Front National n'ont pas de députés, alors que tous les autres se partagent en toute tranquillité les sièges à l'Assemblée nationale. Je crois là aussi qu'il y a une campagne à mener de soutien à l'ensemble des médias nationaux, des médias qui défendent la droite nationale, qu'il s'agisse bien sûr de Radio Courtoisie dans son domaine, qu'il s'agisse aussi de la presse écrite. Il y a des journaux nationaux, je pense à présent, National Hebdo, Rivarol, qui mènent un combat courageux et qui sont, comme nous le sommes, nous, au niveau politique, qui sont, eux, persécutés dans leur organisation et dans leur travail d'information. Le journal Présent est en effet victime depuis, vous le savez, quelques semaines de campagnes qui visent à l'étrangler financièrement. Et je crois qu'il y a là un effort des nationaux, des patriotes français, de solidarité, de soutien à l'égard de toutes les structures d'information qui disent la vérité. Il n'y a pas de démocratie viable s'il n'y a pas un droit à l'information et à la vérité. Il faut dire la vérité aux Français, et c'est en disant la vérité aux Français qu'ils pourront ouvrir les yeux et à partir de là renvoyer les hommes qui nous gouvernent de droite comme de gauche à leurs chères études et ouvrir la voie à la mise en place d'une autre politique.
Alors, vous parliez de Présent à l'instant et de l'affaire, ce qu'on peut appeler l'affaire Parmentier en fait. Et j'en profite pour donner lecture du papier que publie Jean Madiran à la une de Présent de ce soir, que vous trouverez en kiosque maintenant et demain matin, parce qu'il résume parfaitement la situation. Jean Madiran dit « L'affaire des poursuites contre Caroline Parmentier manifeste une urgence de salut public. On tente d'enlever aux Français le droit de s'exprimer librement sur les réalités catastrophiques de l'immigration et sur la politique d'immigration-invasion qui a conduit à ce désastre national. Cette politique suicidaire, camouflée maintenant en une prétendue recherche d'impossible intégration, ne veut pas renoncer. Pour cela, elle s'efforce par intimidation judiciaire d'empêcher l'information, le commentaire non officiel, l'analyse libre. Les mots immigration, bandes ethniques, maghrébins deviennent des mots suspects frappés d'interdit. Nous refusons cet interdit, nous refusons ce silence imposé, nous refusons cette servitude. Dans une telle bataille, vous pouvez tous nous aider, dit Jean Madiran. Premièrement, dans vos assemblées, en adoptant des motions de soutien, elles ont un retentissement spécifique indispensable. Secondement, en organisant des déjeuners rencontres avec les journalistes de Présence, c'est un moyen encore plus spécifique et encore plus indispensable. Et il donne ensuite quelques exemples de motions de soutien qui ont été envoyées, notamment par la Chrétienté Solidarité ou par le CNC, les adhérents de maintenance du Berry et des gens comme ça. Alors c'est évident que là, Madiran met une fois de plus le doigt sur l'endroit où ça fait mal. Ça, c'est tout à fait clair que Pasqua et les autres, qui sont dans l'incapacité de résoudre les drames liés à l'immigration, trouvent une solution, c'est de ne pas d'interdire qu'on en parle. Alors évidemment, c'est une vieille histoire. Je crois que c'est Chamfort qui disait que on préfère en France condamner les gens qui sonnent le glas plutôt que d'essayer d'éteindre les incendies. Et là, on est au cœur du problème. Moi, je crois que le cas Parmentier est un cas absolument typique. C'est un modèle de nécessité de mobilisation de toute la famille. Et quand je dis toute la famille, je pense à tous les gens qui sont qui ont au cœur l'amour de ce pays, l'amour de la liberté d'expression et l'amour de la vérité, la vérité avec un grand V ou avec un petit V comme vous voulez, mais l'amour du droit à s'exprimer. Or, ça me paraît capital de se mobiliser. On peut le faire de mille manières. On peut le faire en écrivant à présent, en faisant des pétitions, et puis en écrivant à ses députés aussi, car vos députés qui ne sont pas du Front National sont quand même vos représentants, que ça leur plaise ou non, et il faut leur écrire en disant que il est scandaleux que dans un pays où on refuse de traiter normalement des parlementaires soupçonnés de malversation, on puisse traquer d'une façon aussi violente des journalistes. Moi, je suis moi-même en ce moment, je fais l'objet d'une véritable, je dirais, d'un matraquage judiciaire qui est quelque chose d'incroyable. Mais vraiment, si on n'avait pas la foi chevillée au corps, il y a des moments où on se dirait, bon, j'arrête tout, c'est trop fatigant et c'est trop cher. Moi, je crois qu'il faut que les citoyens se mobilisent, pas pour défendre les journalistes, parce que au fond, c'est pas le problème, c'est pour se défendre eux-mêmes, défendre le droit d'avoir une information qui soit pas prédigérée par les lobbies. À ce propos, d'ailleurs, il y a quand même une autre affaire. Bon, on en parle rapidement, si vous voulez, Karl Lang, c'est l'affaire de l'affaire Touvier. Et bon, l'affaire Touvier, au fond, c'est pas ça qui me paraît important en soi, traitable en soi ici. Ni vous ni moi ne sommes historiens. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de noter à quel point, à la veille du procès, Touvier est condamné. Tout le monde est d'accord là-dessus. Il suffit de lire le numéro spécial du Monde de ce soir pour voir que le procès, on sait déjà comment il va se terminer, on sait quelles vont en être les conclusions, on sait pratiquement quel va en être le verdict, et on se demande pourquoi on perd le temps de faire ce procès.
Oui, puis aussi, n'est-ce pas, cela permet de ne pas parler des problèmes d'aujourd'hui, de la société, du pays. Il y a dans notre pays 6 millions de chômeurs réels, il y a un jeune Français sur 5 de moins de 25 ans qui n'a pas de travail. À partir de 45 ans, dans notre pays aujourd'hui, vous ne trouvez plus d'emploi quand vous êtes licencié. Parler de l'affaire Touvier, de ce qui se passait en France il y a 50 ans, permet en effet d'occulter les vrais problèmes du pays aujourd'hui. Nous sommes des adeptes de la réconciliation nationale. Nous pensons que la guerre civile et internationale de la Seconde Guerre mondiale est terminée, qu'il y a eu l'épuration, que tout ceci doit être fini. Nous pensons qu'il faut aujourd'hui ouvrir la voie à la réconciliation, à l'unité française, alors qu'il y a des gens qui prennent, je le crois, un malin plaisir à ressasser nos guerres, nos querelles d'il y a 50 ans, à faire le procès permanent de la France, a dénoncé au travers de cette Seconde Guerre mondiale un certain nombre de valeurs et de traditions nationales. Nous pensons clairement que la France aujourd'hui doit préparer l'avenir, panser ses plaies, fermer ses blessures et se réconcilier, se rassembler. Ça n'est pas en pratiquant ce masochisme historique et passéiste que nous traiterons les vrais problèmes du pays. Remarquez tout de même que pendant ce temps-là, on ne parle pas de ce qui se passe en France. C'est un moyen comme un autre, c'est la technique du camouflage, c'est la technique de l'écran de fumée, nous l'avons connu, mais je crois que les Français aujourd'hui ont d'autres préoccupations, d'autres problèmes que de larmoyer et que de pratiquer une auto-culpabilisation permanente sur ce qui s'est passé il y a 50 ans.
C'est d'autant plus vrai que les médias, on le voit là avec l'affaire Touvier, sont obligés de mentir d'une manière absolument éhontée pour faire pleurer dans les chaumières. Parce que il est évident que si on raconte la véritable histoire Touvier, on s'aperçoit que c'est pas très exactement ce que nous racontent les journalistes. Un journaliste racontait hier l'histoire de la façon suivante. La résistance tue Philippe Henriot à Paris. Le lendemain, la milice hystérique arrête 7 juifs et les fusille dans l'heure qui suit. C'est un mensonge absolu. Les choses ne sont absolument pas passées comme ça. Les Allemands, il faut le rappeler, avaient demandé que 100 otages soient fusillés. Après des jours de négociations, on a fini par obtenir que simplement, que seulement 30 otages soient fusillés, c'est-à-dire que 70 soient épargnés. Et Touvier lui-même a obtenu que les victimes, le nombre des victimes soit en toute fin limité à 7. Autrement dit, comme le dit génialement, je dois dire, Conque, dans le dessin qu'il publie ce matin dans National Hebdo, est-ce qu'on pourrait avoir le témoignage des juifs survivants, des 23 juifs qui n'ont pas été fusillés?
23 juifs qu'il a sauvés.
Que Touvier a sauvé. Et ça, personne ne le dit. Alors, sur le fond de l'affaire, après tout, la justice s'est déjà prononcée. Le président de la République de l'époque, qui n'avait pas ma sympathie, qui était Pompidou, a gracié Touvier. Je pense qu'il avait en main des éléments pour le faire. On a voulu réveiller cette vieille histoire. Moi, je sais exactement pourquoi, je ne suis pas le seul à le savoir. J'ai écrit souvent les vraies raisons de cette espèce d'agitation moléculaire autour de ce qui s'est passé en France il y a un demi-siècle, uniquement dans ce domaine, parce que quand après on retrouve un type qui, en Indochine, collabo du Viet Minh, a fait bien pire que ce qu'a fait Touvier, on nous explique que non, il faut passer l'éponge, que ce monsieur, dont le nom m'échappe décidément, qui était le torsionnaire
Boudarel.
Boudarel, voilà. Que ce monsieur Boudarel est un type, finalement, qui n'est pas coupable de ce qu'il a fait, et qu'il faut surtout pas le condamner, il faut pas réveiller ces vieux démons. Alors, il faut pas réveiller les vieux démons quand il s'agit d'un torsionnaire communiste qui a fait mourir des dizaines de Français, mais il faut réveiller les vieux démons quand il s'agit d'un milicien qui a fait fusiller des otages. Moi, je voudrais qu'on m'explique
qui a fait fusiller,
bon, qui a choisi en tout cas. Je voudrais bien qu'on m'explique cette logique. Elle me paraît. Alors, en soi, je comprends parfaitement que les gens aient ces positions-là. C'est normal. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que les consommateurs d'informations, les citoyens, ne soient pas plus éveillés. Comment un Français peut-il ne pas se poser la question de l'honnêteté des gens qui l'informent quand il est confronté à ce genre de paradoxe incroyable? Comment est-ce qu'il se révolte pas en disant, écoutez, je veux bien tout ce que vous voulez, je veux bien payer des impôts, je veux bien payer la contribution sur la fortune, je veux bien payer tout ce que vous voulez, mais au moins faites-moi la grâce de ne pas me prendre pour un imbécile. Or, quand on met en parallèle l'affaire Touvier et l'affaire Boudarel, on s'aperçoit qu'on prend vraiment les Français pour des imbéciles. Vous parliez, Karl, oui, vous voulez dire quelque chose, Victorien? Non. Vous parliez, Karl, vous nous disiez qu'il y avait quand même d'autres sujets de préoccupation que ces histoires semi-séculaires. Bon, il y a un sujet de préoccupation qui, lui, est très, très contemporain, très actuel. C'est l'affaire du CIP, par exemple. Alors, comment expliquer? D'abord, je vais vous poser la question d'une façon un peu perverse. Comment expliquez-vous le silence du Front National sur cette affaire? Mais est-ce qu'il y a réellement silence?
Non, nous avons pris une position claire, officielle. J'ai fait, il y a une quinzaine de jours, un communiqué pour dénoncer la logique du contrat d'insertion professionnelle. Le Front National, en effet, considère là que ça n'est pas le problème. Le problème du pays aujourd'hui, c'est le problème de sa politique économique. Or, le contrat d'insertion professionnelle est archétypique d'une volonté de régression sociale liée à la libre concurrence sauvage et à la concurrence internationale. En effet, si l'on reste dans la logique du libéralisme et de la concurrence internationale, nous devrons adapter notre système de protection sociale à celui de la Malaisie, de la Corée et du Vietnam. Si l'on ne veut pas accepter la régression sociale, la diminution du niveau de vie et la réduction des moyens de nos compatriotes, il faut refuser la logique du libre-échangisme. Or, le gouvernement Balladur, comme les gouvernements socialistes, dans le cas de cette Europe de Maastricht ouverte aux quatre vents de la concurrence internationale, est dans une logique du mondialisme économique, de l'internationalisme libéral. C'est une logique économique contraire à nos intérêts nationaux. Nous avons perdu à ce petit jeu-là nos mines, nos sidérurgies, notre métallurgie. Nous sommes dans le Nord, dont je suis l'élu, en train de perdre le textile. Nous sommes en train de sacrifier l'agriculture française et la pêche française, et nous perdons toutes nos industries de main-d'œuvre pour une raison simple, vous le savez bien, c'est que les coûts salariaux dans ces pays extra-communautaires sont 5, 10, 20 fois plus faibles que les nôtres. Donc, dans ces conditions, il y a deux solutions pour être compétitif. soit on adapte, on réduit nos charges sociales et nos coûts sociaux à ces pays-là, c'est la régression sociale, c'est la logique du CIP, c'est la logique du CIP, soit on protège notre marché, soit on part à la reconquête du marché national et communautaire en appliquant une règle simple, produire français en France avec des Français. Sinon, nos entreprises continueront de se délocaliser partout dans le monde, puisqu'elles ne peuvent pas être compétitives en payant les ouvriers français à un prix normal dans notre pays. Eh bien, on va faire travailler des ouvriers pakistanais, philippins et autres. Ce qu'il faut condamner, c'est la logique économique de ce gouvernement. Or, les syndicats de gauche qui appellent à la manifestation acceptent cette logique du libéralisme sauvage. Cette logique du libre-échangisme a été aussi celle du gouvernement Bérégovois, ce fut celle de Michel Rocard, c'est celle de tous ces Européens maastrichtiens qui sont favorables à l'ouverture de notre marché européen, la concurrence sauvage internationale. Donc il y a là un vrai problème de fond. Ça n'est pas en entrant dans une logique de régression sociale que nous sauverons l'économie nationale. Il faut la protéger, protéger nos marchés et défendre d'abord les intérêts nationaux.
D'autant que la logique de régression sociale, elle peut pas être menée à son aboutissement, puisque il faudrait, par exemple, en arriver à se mettre sur un pied d'égalité, même à qualité de travail, à moyens de travail égaux, avec les Vietnamiens qui, à l'heure actuelle, doivent coûter, je crois que un ouvrier vietnamien doit être payé 2,50 francs de l'heure, quelque chose comme ça. Donc, en admettant qu'on accepte d'être payé, qu'on considère qu'un ouvrier français mérite d'être payé 10 fois plus qu'un ouvrier vietnamien, ce qui serait déjà une injustice et presque une forme de racisme, il faudrait encore que les ouvriers français acceptent de voir leur salaire réduit à 25 francs de l'heure. Mais ce qui est impossible. Donc, c'est pas la peine de s'engager sur une voie qui est barrée à l'évidence.
Permettez-moi de rappeler aussi que la politique d'immigration que nous avons supporté depuis 20 ans, entrait déjà dans cette logique-là. Parce que le patronat français, à une certaine époque, a souhaité, afin d'améliorer sa compétitivité, diminuer ses coûts de production, faire appel à une main-d'œuvre sous-payée, donc extra-nationale, n'est-ce pas ? Dans ces conditions-là, si nous acceptons la règle du libéralisme sauvage et la concurrence sauvage, eh bien, la première conséquence a été l'immigration, la deuxième conséquence sont les délocalisations, la troisième conséquence, ce sont les licenciements, les pertes de marché, la désintégration du tissu économique et donc, dans un second temps, du tissu social. La France est en situation de choc économique et social, et face à cela, il faut une autre politique, il faut une politique nationale, il faut une politique de protection de nos marchés, il faut une politique de préférence nationale, il faut réserver les emplois qui se libèrent ou qui se créent aux travailleurs français, aux demandeurs d'emploi français, il faut mettre en place aussi une grande politique de la famille pour aider à la natalité, et puis il faut diminuer les charges excessives qui pèsent sur nos entreprises. Si nous n'engageons pas ensemble de manière articulée et coordonnée ces politiques-là, nous ne pourrons pas arracher le pays à l'état de choc économique. Or, les gouvernements de gauche comme de droite, qu'ils soient libéraux ou socialistes, sont dans la logique de la concurrence sauvage, et que ce soit Monsieur Balladur, quelles que soient ses bonnes intentions, ou Michel Rocard ou d'autres, en ne s'attaquant pas au vrai problème, en ne s'attaquant pas à l'étiologie, à l'origine de la maladie, on ne pourra pas sauver le corps social français.
On peut quand même se poser la question, moi j'en viens de façon obsessionnelle à cette idée, de savoir si le corps français, le corps social français a envie d'être sauvé. Balladur dit une chose qui est pas totalement fausse. Il dit dans ce pays, on peut entamer aucune réforme. Dès qu'on bouge quelque chose, on a tous les intérêts liés, tous les corporatismes au plus mauvais sens du terme, qui descendent dans la rue et qui s'opposent par force et violence à la moindre réforme. Donc on ne peut rien changer. On sait par exemple que le problème de la sécurité sociale, qui se pose de manière endémique depuis des années, ne pourrait être résolu que par des mesures drastiques. Il est absolu, et notamment par la confiscation de cet organisme au parti politique qui l'infeste, et qui est le Parti communiste par l'intermédiaire de la CGT. Eh bien, on ne peut absolument rien faire. Si on touche la sécurité sociale, on a une explosion dans ce pays immédiate. Si on touche l'enseignement, on a une explosion. Si on touche le chômage, enfin l'emploi, on a une explosion. C'est-à-dire que c'est un pays qui... On a l'impression d'avoir un gros ours qui est en train d'hiberner, et chaque fois qu'on lui pique la fesse, il vous met un coup de griffe. Et j'ajoute que c'est le même syndrome, à mon avis, qui explique la situation actuelle du Front National, c'est-à-dire que le Front dit « Mais écoutez, nous, on a une contre-proposition à faire. On propose une autre politique. » Et les gens disent « Foutez-nous la paix. » Foutez-nous la paix. Arrêtez de nous embêter avec la vérité.
Oui, au demeurant, n'est-ce pas, je crois qu'après un an de gouvernement, on peut constater, dans la ligne de ce que vous venez d'indiquer, que le gouvernement Balladur ne fait rien pour arranger les choses. Bref, il ne sert à rien, car il ne s'attaque pas au vrai problème. L'exemple de la sécurité sociale est tout à fait essentiel, en effet. Il faut bien que nos auditeurs sachent ce dont il s'agit. En 1994, il faut savoir qu'en 1994, le budget du seul régime général de la sécurité sociale, qui ne représente que 14 millions d'actifs qui cotisent, 65% des cotisants, le seul régime général de la sécurité sociale aura un budget de 1100 milliards de francs lourds, c'est-à-dire à peine moins que le budget de l'État, pour le seul régime général de la sécurité sociale. La Caisse nationale d'assurance maladie, budget de 500 milliards de francs. Or, ces sommes colossales, astronomiques, sont gérées de manière confiscatoire par le patronat et par les syndicats. Les Français, ni par eux-mêmes, ni par leurs représentants ou soi-disant représentants de l'Assemblée nationale, n'aient le droit d'aller mettre leur nez là-dedans. Donc il est temps effectivement de s'attaquer au problème, ce que ne fait pas Balladur, parce que face à ce constat, la seule décision prise par Madame Veil et par Balladur en 93 a été de quoi ? D'augmenter la CSG. Les déficits s'aggravent, les prestations diminuent. Que fait-on ? On augmente les cotisations, on augmente la CSG, les cotisations, mais on ne traite pas le vrai problème. Voilà un exemple clé, essentiel, nécessaire à réformer. Et le gouvernement est passé à côté de sa chance alors qu'il a tous les pouvoirs.
À mon avis, c'est même un domaine qui est presque trop exemplaire, qui est trop parfait dans l'exemplarité. Parce que quand vous dites le régime de la protection sociale en France, enfin le formidable budget de la protection sociale, qui est supérieur au budget de l'État. L'ensemble des prestations supérieur au budget de l'État. Et contrôlé de manière confiscatoire par le patronat et les syndicats, c'est vrai dans l'absolu. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que le patronat, par ses représentants dans les organismes de gestion de la protection sociale, en quelque sorte, négocie la tranquillité de ses mandants en abandonnant la gestion de ces organismes à la CGT, en disant, écoutez, on vous emmerde pas avec la sécurité sociale, alors foutez-nous la paix dans nos entreprises. C'est une espèce de négociation secrète qui se passe en permanence. Le résultat, qui est quand même extravagant, c'est que, depuis des années, les élections à l'intérieur des organismes de contrôle de la sécurité sociale sont reportées, et les gens qui sont les élus, qui doivent exercer le contrôle, se reconduisent eux-mêmes dans leurs fonctions, au mépris des règles qui leur imposerait de faire des élections tous les 4 ans. C'est exactement, ou tous les 5 ans, je sais pas les délais. C'est exactement comme si au Parlement, les députés à l'issue de la législature disaient, eh ben non, tiens, on en reprend pour 2 ans, et puis on annule les élections. C'est ce qui se passe. Or, les députés ont le contrôle du budget de la nation. Enfin, ils sont censés l'avoir. En réalité, ils contrôlent évidemment rien du tout. Mais ils n'ont pas le contrôle du budget de la protection sociale, qui, je le répète, est supérieur au budget de la nation. Ça, c'est quand même une chose. Voilà, encore que les Français ne savent pas. S'ils le savent, ils ne comprennent pas. Et quand qu'ils le savent et qu'ils l'ont compris, ils vous disent, écoutez, venez pas nous raconter des histoires avec ça. On a assez de soucis. Hein. J'ai ma voiture qui est en panne. J'ai mon chien qui est malade. Ma femme me fait la gueule. Foutez-moi la paix avec vos histoires. C'est quand même effrayant de penser que ce pays est bloqué à cause de ça, à cause du refus des Français de prendre en considération la vérité. Un exemple, l'affaire des pêcheurs. Vous avez parlé tout à l'heure de la pêche. Mais ces pêcheurs qui se sont révoltés, quand ils étaient devant les urnes, qu'est-ce qu'ils ont fait ? À 60%, ils ont voté pour Maastricht.
C'était peut-être la dernière fois. J'espère bien que les pêcheurs qui sont en situation de disparition ont compris qu'il n'avait rien d'autre à attendre de ce gouvernement que des coups de matraque. Parce qu'il est tout de même assez spectaculaire d'avoir vu à la télévision des coups de crosse donnés aux pêcheurs bretons qui manifestaient, et que, curieusement, quand ce sont les voyous de banlieue qui descendent et qui cassent à Paris, comme ils l'ont fait récemment dans le cadre des manifestations étudiantes, il y a là, de la part de Monsieur Pasqua, un libéralisme tout à fait étonnant, n'est-ce pas ? Quand ce sont des bandes de banlieue qui viennent casser, qui viennent piller, qui viennent racketter, bien finalement on fait preuve d'un certain laxisme. Mais quand ce sont les pêcheurs français, quand ce sont les ouvriers, les travailleurs français, alors là on ne mollit pas, et Monsieur Pasqua ne mollit pas.
Mais vous voyez, moi je note une chose à propos on va revenir sur les pêcheurs si vous voulez, parce que je voudrais qu'on parle de cette affaire du compromis français avec la Norvège. Mais à propos des manifestations dont vous parliez, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que les manifestations étudiantes, les manifestations des étudiants et des lycéens ont donné lieu à des débordements, à des pillages, à des actes de vandalisme, dont on sait, vous n'avez qu'à regarder les photos, hein, dont on, et les photos des, qui ont été faites par les policiers et publiées dans les commissariats. Ce sont des gens de la banlieue, on voit ce qu'on appelle des jeunes qui sont venus et qui ont fait ça. Quelques jours plus tard, il y a eu une manifestation de la CGT et il ne s'est absolument rien passé. Il n'y a pas eu un poil de bougé. Alors on nous dit, oui, oui, mais c'est parce que, vous comprenez, la CGT a un service d'ordre sérieux et que la CGT, elle est arrivée à endiguer les débordements. Ça n'est pas vrai. La CGT a pas un service d'ordre plus sérieux que n'importe qui. Ça, c'est des vieilles histoires. Ça, c'est l'histoire, des histoires de la CGT des années 50. La CGT des années 90, c'est des notables qui viennent travailler en Renault 25 pour les chefs. Et il n'y a plus le service d'ordre qu'il y avait. Puisque, tout simplement, il n'y a plus de recrues, il n'y a plus de militants. Vous n'avez qu'à regarder les gens qui vendent l'humanité sur les marchés. Vous verrez si c'est des gars qui sont capables de faire respecter l'ordre dans la rue. Donc, la vérité n'est pas là. La vérité, c'est que quelqu'un a mobilisé des jeunes à la suite d'une manifestation étudiante et n'a pas mobilisé ces jeunes à la suite d'une manifestation des syndicats. Pourquoi ? Parce que, à l'heure actuelle, on voit chaque fois qu'il y a des syndicats qui se manifestent, eh bien, les choses se passent régulièrement, eh bien, chaque fois que ce sont des coalitions ou comment appelle-t-on ça, des coordinations, ça débouche sur des désordres. Moi, je pense que c'est parce que le gouvernement, les gouvernements, ne veulent pas que les syndicats perdent leur crédit. Et veulent continuer à avoir un seul interlocuteur qui est le syndicat. Donc, quand c'est le syndicat qui manifeste, c'est une manifestation officielle, autorisée, consensuelle. Le gouvernement est content parce que c'est quelqu'un avec qui il va pouvoir discuter. On discute entre copains, on s'entend très bien. Entre élus syndicaux et élus du peuple, on s'arrange très très bien. En revanche, quand c'est des coordinations, des mouvements spontanés, alors là, il faut absolument les briser dès le départ, parce qu'ils empêchent le dialogue entre copains et coquins.
Oui, permettez-moi de vous dire concernant justement les pêcheurs, qu'il s'agissait là justement d'une manifestation spontanée qui est liée à ce que nous indiquions tout à l'heure, c'est que la pêche française est condamnée, il reste 16 500 pêcheurs, 7 000 bateaux français, elle est condamnée pourquoi ? Parce qu'elle est livrée à la concurrence internationale. Elle a été depuis des années victime de la concurrence communautaire avec l'Espagne et elle est aujourd'hui victime de la concurrence internationale. Les poissons viennent de partout, d'Amérique du Sud, de Chine, de Nouvelle-Zélande, d'Australie, à des tarifs qui sont 2-3 fois moins chers que les nôtres. Alors le gouvernement, face à la contestation et à l'état de mise à mort de la pêche, avait obtenu de la Commission de Bruxelles quelques prix minima, qui étaient vraiment le minimum acceptable. Et cette disposition de sauvegarde n'est pas reconduite. Et donc, si la Commission de Bruxelles décide donc de ne pas permettre à la pêche française de survivre. Et là, nous avons un exemple particulièrement révélateur, d'une part, de l'opposition entre les intérêts technocratiques et bureaucratiques de Bruxelles et l'intérêt national, et d'autre part, une opposition entre l'intérêt national et le libéralisme sauvage. Ce qui arrive à la pêche aujourd'hui arrive aussi à la paysannerie française et arrivera, je vous le disais tout à l'heure, à tout ce qui nous reste de secteurs de main-d'œuvre et d'industrie de main-d'œuvre. Nous sommes condamnés à la disparition si nous ne changeons pas de politique et si nous ne tournons pas le dos à cette technocratie de Bruxelles et de Maastricht et à ce libéralisme sauvage.
Alors, Karl Lang, il y a une question, alors on va y venir pour terminer cet entretien, si vous voulez. C'est la question des cantonales. Alors, c'est quand même ça de l'actualité politique brûlante, puisque c'est dans 4 jours le premier tour des cantonales.
Ben écoutez, les choses sont claires. Nous faisons campagne sur un thème simple. Il faut que ça change. Nous constatons que les conseils généraux soient gérés par la gauche ou par la droite, alternativement et successivement, ça ne change rien. La pression fiscale ne cesse d'augmenter, les difficultés de logement, d'insertion, de travail, d'immigration dans les départements sont les mêmes, qu'il s'agisse des conseils généraux dirigés par la droite, entre guillemets, ou par la gauche. le vrai changement ne peut venir que du Front National. Nous disons, nous, il faut que ça change, et pour que ça change, il faut mettre en place une autre politique qui commencera par les mairies l'année prochaine, qui continue par les conseils généraux, par les conseils régionaux, par l'Assemblée nationale et l'élection présidentielle, et puis au mois de juin, par l'élection au Parlement européen. Donc, les candidats du Front National sont présents dans tous les cantons renouvelables, quasiment tous les cantons renouvelables, 95% d'entre eux, pour défendre l'intérêt national. Et nous, c'est vrai, nous ne faisons pas de clientélisme. Nos élus et nos candidats ne sont pas là pour défendre des intérêts, ni de groupes de pression, ni immobiliers, ni politiciens. Nous défendons le seul intérêt qui compte, c'est l'intérêt du peuple français et des Français d'abord. Mais à force de dire cela, à force de mener campagne, d'être présent sur le terrain, nous finissons par être entendus petit à petit, malgré les oppositions, malgré les difficultés. La prise de conscience se fait, les Français ouvrent les yeux, et moi je suis convaincu qu'un jour ou l'autre, ils comprendront qu'il est nécessaire de faire l'effort de survie. Ils auront le sursaut vital qui permettra de mettre en place avec le Front National et autour du Front National grande politique de redressement national et de reconquête du pays, faute de quoi la nation française disparaîtra. Mais moi je suis persuadé que les Français, au fond d'eux-mêmes, gardent encore cette faculté de sursaut, de survie et d'instinct de défense.
Non, en tant que secrétaire général du Front National, vous êtes en contact permanent avec toutes les fédérations et avec donc avec la France profonde, la France réelle. Et je voudrais avoir votre opinion sur quelque chose que KDG me disait il y a quelques jours au téléphone. Il était en train de faire campagne puisqu'il est candidat au cantonal dans le canton de Loches, à côté de Tours. Et il me disait, c'est très étonnant parce que on retrouve pas du tout à la campagne l'hostilité méprisante qu'on peut rencontrer à Paris. Il dit, là, j'ai été reçu par tous les maires de mon canton, que ce soit des communistes, des socialistes, quelle que soit leur appartenance, ils m'ont reçu comme candidat d'une façon très correcte et très, ouvrez les guillemets, républicaine, fermez les guillemets. Il était assez surpris de cette attitude. Est-ce que vous avez les mêmes échos
Oui, il est évident aujourd'hui, plus qu'hier encore, que le fossé entre le pays réel et le pays légal ou médiatique est considérable. Et que, certes, s'il y a encore une hostilité contre le Front National au sein de l'intelligentsia médiatique parisienne, auprès du peuple français, auprès des Français qui souffrent, qui sont en difficulté, qui se posent des questions, qui ne croient plus dans les politiciens qui les ont représentés depuis 20 ans, eh bien, il y a un accueil, il y a une écoute. C'est la raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure que tout était possible dans les 18 mois qui viennent, jusqu'à l'élection présidentielle, car il y a une prise de conscience, d'abord de l'échec des politiques de gauche et de la politique libérale, et une ouverture d'esprit, un intérêt par rapport aux propositions du Front National. Et puis les Français se rendent compte sur le terrain, quand ils sont en contact avec leur candidat du Front National, que nous sommes des Français comme les autres. Que l'image qui a été véhiculée de notre mouvement n'est pas conforme du tout à la réalité. Et ils observent et ils discutent avec des candidats du Front National qui ont les mêmes difficultés qu'eux, qui sont père ou mère de famille, et qui ont des difficultés de logement, d'emploi, d'éducation de leurs enfants, et qui parlent un autre langage, qui proposent une autre politique. Et un jour ou l'autre, eh bien, je suis convaincu que cela finira par porter ses fruits. Et c'est vrai aujourd'hui ce que disait ADG, l'écoute à l'égard des propositions et des déclarations des candidats du Front National est bien plus importante. C'est un excellent signe pour l'avenir.
Je voudrais pas vous demander de faire des pronostics, mais est-ce que le Front National peut espérer des élus, de combien? Est-ce que vous en avez une idée?
Écoutez, vous savez bien que ce mode de scrutin majoritaire de tour est confiscatoire. D'autre part, nous avons affaire à des sortants, à des concurrents sortants, qui sont souvent
des notables locaux
installés de manière quasi féodale, n'est-ce pas? Donc, c'est dire que c'est très difficile, mais je peux vous annoncer que le Front National, je le crois, va pratiquement doubler son score par rapport aux élections de référence, c'est-à-dire aux cantons qui ont été renouvelés en septembre 88, nous ferons, je crois, près du double de notre score de septembre 88, de canton comparable à canton comparable. Ce sera une très forte progression de notre mouvement au premier tour. Nous nous maintiendrons au deuxième tour partout, cela sera possible, et nous espérons effectivement au deuxième tour, dans ce cas-là, avoir des élus. Rien n'est certain, rien n'est impossible, et ça ouvrira la voie à une grande campagne européenne que mènera Jean-Marie Le Pen entre avril et juin.
Alors, dernière question, pour ce qui me concerne, après on aura peut-être des questions d'auditeurs, même sûrement, c'est une question personnelle. Moi, j'ai connu Karl Lang il y a, je sais pas, 10 ans, une dizaine d'années plus, quand vous êtes entré au front.
En 78.
78, oui. Alors, ça ne rajeunit pas tout ça. Il y a donc 16 ans. Est-ce que vous êtes heureux aujourd'hui? Est-ce que vous avez réalisé ce que vous espériez il y a 16 ans, quand vous êtes entré au front et quand vous avez pris ensuite la tête de du Front National de la Jeunesse.
Écoutez, oui, il faut dire que nous avons, en tant que militants nationaux et français des années 70, remporté au début des années 80, au cours des années 80, une immense victoire. C'est de voir la défaite du communisme. Nous avons été, dans les années 70, des militants anticommunistes, très engagés, très actifs. On nous traitait d'activisme. La défaite du communisme, l'effondrement de l'Empire soviétique a été pour nous un immense bonheur, une immense joie. De plus, l'émergence de la droite nationale et de l'opposition nationale dans la vie politique française a été tout à fait spectaculaire. Ce que nous avons réalisé, je vous le disais tout à l'heure, depuis 10 ans, de 84 à 94, est considérable. Nous avons beaucoup fait, mais il nous reste beaucoup à faire. Car nous ne sommes pas là simplement pour nous présenter aux élections, ni pour siéger dans les assemblées locales. Nous sommes là pour régler les problèmes du pays, pour sauver la France de l'état de désintégration économique, politique et sociale qu'elle vit. Et pour cela, il faut gagner les élections et assumer les responsabilités de l'État. C'est notre objectif.
Merci Karl Lang. Et puis à bientôt, sans doute, pour commenter les résultats des cantonales. Oui, pardon, j'avais dit que les auditeurs auraient la parole.
Oui. D'abord, c'est pour l'anecdote. J'ai une nouvelle carte, nous dit un auditeur, pour voter. Mais elle n'est plus intitulée carte d'électeur, mais carte électorale. Qu'en pensez-vous ?
Écoutez, l'important, c'est qu'elle serve au moins quelque chose et que celui qui a la carte, s'il est français, aille voter. Parce que de plus en plus, il y a des électeurs qui ne sont plus seulement français, n'est-ce pas ? Et il est temps que les électeurs français se prennent en charge et assument leurs responsabilités. C'est de leur avenir qu'il dépend.
Que pensez-vous des derniers sondages sur le front ?
Écoutez, moi, ce qui m'intéresse surtout, ce sont les résultats électoraux. Alors, nous aurons un sondage en grandeur nature le 20 mars, et à partir de là, nous pourrons faire des commentaires sérieux.
Si je peux ajouter une chose, je voudrais inviter les auditeurs, ils le savent, mais je crois qu'il faut le rappeler sans arrêt, à comparer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce qui est comparable. C'est-à-dire que Le Monde va probablement comparer les résultats des cantonales avec les résultats des dernières élections générales, qui sont les élections législatives, voire même avec les résultats des élections présidentielles, ce qui va permettre de montrer qu'il y a un effondrement du Front National, bien entendu, puisqu'on passe d'une élection nationale sur une tête à une élection locale, limitée d'ailleurs aux 2/3 du territoire national. Donc il faut comparer ce qui est comparable. C'est très important, ça, de ne pas se laisser intoxiquer par cette manipulation des chiffres qui est constante.
Que répondriez-vous à M. Poniatowski, qui disait dernièrement que l'échec des élections était le fait du Front National et que celui-ci devrait mettre de l'eau dans son vin?
Écoutez, moi, je constate qu'il y a les élections et il y a l'exercice du pouvoir. Moi, je m'intéresse aujourd'hui à l'échec de la politique de ce gouvernement Balladur, et j'invite M. Poniatowski à participer au Rassemblement national autour du Front National, puisque nous sommes prêts à accueillir tous ceux qui entendent défendre la nation française. Et il en est de même pour M. Poniatowski, comme pour M. Seguin ou M. Philippe de Villiers. Il ne suffit pas de tenir des propos qui apparaissent sur la forme proche des nôtres. Il faut mettre ses actes en conformité avec ses paroles.
Un auditeur propose une réponse. Il dit « Toutes les bonnes volontés, les grandes résolutions que nous pourrions réunir seront vaines. Tant qu'un miracle n'aura pas annulé l'acte d'allégeance qu'ont fait les divers patrons de la droite conventionnelle au Bnaï Brit. »
C'est le combat national contre le combat des internationalistes.
Je souscris à tout ce que vous dites, mais qu'en serait-il par rapport à tous les traités signés, Maastricht et autres, si on changeait de politique, par exemple avec le front au pouvoir ?
Eh bien écoutez, nous appliquerions une doctrine et un principe simple, c'est celui de l'intérêt national. C'est l'intérêt national et l'intérêt du peuple français qui doit guider toutes nos positions. Et le groupe du Front National à l'Europe l'a déjà déclaré, si au nom de l'intérêt national, de la défense de son identité, de sa souveraineté, de ses frontières, de sa monnaie, il fallait aller jusqu'à sortir de l'Europe, de Bruxelles, de Schengen et de Maastricht, eh bien nous le ferions.
Et enfin, une auditrice pessimiste qui dit que M. Karl Lang et tous les gens du Front ne se fassent pas trop d'illusions. D'ici un an, le mode de scrutin a le temps de changer. Pourquoi pas un système majoritaire à 2 tours, partout ?
Bah écoutez, nous verrons, mais vous savez, on ne peut pas empêcher l'expression démocratique toujours. Et la colère qui monte au sein des familles françaises finira bien, quel que soit le mode de scrutin, par balayer ceux qui sont co-responsables de la situation dramatique que nous connaissons aujourd'hui dans notre pays.
Merci Karl, merci et merci. À bientôt.
Merci.
C'était bien joli, ça. C'était oui. moins ennuyeux que ce qu'on a entendu tout à l'heure, juste avant mon émission, parce que M. Vivaldi m'avait habitué à mieux. Oh là là, on dirait de l'harpe celtique.
Oh, ce qu'il a dit. On va avoir 650 coups de téléphone.
Alors, bon, si vous en voulez de l'harpe celtique, on peut vous en coller. Vous n'allez pas être déçu du voyage, je vous le dis, moi. Hein, tiens, Franck. Vous voulez préparer un petit peu d'harpe celtique pour ces gens-là ? On va leur faire entendre.
Vous savez que vous vous faites taper sur les doigts aussi par les auditeurs. Non, pas à cause de l'harpe celtique.
Bon,
parce que vous traitez quand même d'imbéciles les électeurs. Alors si vous croyez que c'est comme ça que vous allez les faire voter pour vous, hein,
et pour moi, je ne risque pas de voter pour moi, je ne suis pas candidat.
Les autres sont des imbéciles, mais pas ceux qui votent pour nous.
Je n'ai pas traité les électeurs d'imbéciles. C'est quand même extraordinaire. J'ai l'impression de parler français, mais non, apparemment, je parle le martien. J'ai dit que un électeur qui vote pour le RPR au premier tour, je comprends parfaitement qu'il vote pour l'UDF, pour le RPR, pour le Parti Socialiste, pour le Parti Communiste. Il a ses idées. S'il les exprime dans la conviction qu'elles sont utiles à la France, il a droit de le faire, il a raison de le faire. Mais quand au deuxième tour, ce type-là, par exemple, qui est socialiste, accepte d'unir ses voix à celles des électeurs du RPR, de l'UDF et du Parti communiste, je dis c'est un imbécile, c'est tout, parce qu'il ne vote pas pour quelque chose, il ne vote pas pour ses idées, il vote comme une mécanique. Parce qu'on lui a fait le cinéma du Front Républicain. Voilà ce que je voulais dire.
Comme on lit dans les affiches, il fait où on lui a dit de faire.
Voilà, il fait où on lui a dit de faire. Alors, vous allez voir comme cette radio, cette émission est une émission, c'est un lieu de liberté quand même, vous allez voir, et de rapidité, car une auditrice téléphone pendant que Karl Lang était au micro en disant « Pourquoi invitez-vous toujours des représentants du Front National ?» Je vous promets que j'ai rien inventé. Hein, on aimerait aussi que vous invitiez, par exemple, des gens de Philippe de Villiers. Bon, alors j'ai immédiatement dit à Victoria, invité immédiatement quelqu'un de Philippe Devilliers et tac.
Il est voilà. arrivé en courant. Monsieur
Olivier Lescarret est ici. Non, en réalité, ça faisait des semaines qu'on avait pris rendez-vous, mais c'est amusant que ce message soit arrivé. Alors, monsieur Olivier Lescarret, on l'a déjà reçu à ce micro plusieurs fois, il est délégué départemental du Mouvement pour les Valeurs et membre de l'équipe nationale de Philippe Devilliers. Et bon, je l'invite pour de temps en temps pour qu'il nous explique un petit peu ce que c'est que son mouvement, quels sont ses projets, ses ambitions. Je parle du mouvement, je ne parle pas de monsieur Lescarret qui... Comme tout militant politique, n'a pas d'ambition personnelle ?
Non, bien sûr. Des ambitions pour les idées qu'on défend. Je vous remercie, Serge Debecquech, de m'inviter ce soir, comme vous le faites de temps en temps et toujours très, très gentiment. Cette radio étant un lieu d'expression dans la diversité.
Alors, vous en êtes la démonstration vivante.
Entre autres.
Ce soir, surtout.
Oui.
Alors... Ben, si vous voulez, je voudrais bien vous poser des questions liées à l'actualité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout ce que vous représentez en tant que citoyen engagé dans le combat politique, militant d'un parti ou d'un mouvement, et sur les motivations que vous pouvez avoir de militer dans ce mouvement. Alors, est-ce que la situation générale vous convient ? Est-ce que dans l'ensemble, vous trouvez que... le progrès est net, le progrès de la situation générale est net et remarquable par rapport à ce qu'il était, à ce qu'elle était cette situation générale il y a un an et demi, par exemple, ou un an.
La situation que la majorité parlementaire nouvelle a trouvée en mars 1993 était tout à fait dramatique, plus encore que cela n'a été dit pour diverses raisons dues au contexte, on se souvient de... la disparition tragique du Premier ministre de l'époque. Enfin bref, il y a eu effectivement peut-être un manque de conviction dans la dénonciation de l'héritage socialiste qui n'était pas négligeable, notamment en matière de chômage. Alors, il est certain que des décisions positives ont été prises depuis un an. Nous avons changé d'équipe et je crois que nous avons aussi changé d'éthique. Et c'est une bonne chose. Pour un mouvement comme Combat pour les Valeurs, que de voir d'autres hommes et d'autres pratiques. On préfère avoir au gouvernement M. Balladur que M. Tapie.
Alors là, je vais vous dire, bon, on peut monter un club, hein. C'est pas compliqué.
Pour autant, nous ne sommes pas au gouvernement, puisque nous avons refusé la cohabitation, avant d'ailleurs la victoire aux élections législatives, et nous avions mis en garde les Français... et la classe politique en général, contre les risques d'une seconde cohabitation, puisque nous avions vu les méfaits de la première et la défaite à l'élection présidentielle de 88. C'est pourquoi Philippe Devilliers avait d'ailleurs entrepris un tour de France durant l'hiver 93, dans la perspective des élections, pour faire gagner la droite, pour faire gagner l'UPF, de la façon la plus large possible, et cet objectif a été atteint, comme on le sait, puisque la majorité de droite est la plus importante depuis la Restauration, pour aller bien, bien au-delà de la République. Mais, pour autant, nous souhaitions le départ immédiat du président socialiste, parce qu'il n'était pas possible de travailler avec lui. Les choses étant ce qu'elles sont, Monsieur Mitterrand a nommé un gouvernement et Philippe Devilliers a considéré qu'il ne lui était pas possible d'entrer dans l'opposition à ce gouvernement. Cela n'aurait pas été compris des électeurs devant lesquels il s'était adressé pour leur demander de voter pour les candidats de l'UPF. C'est la raison pour laquelle il avait voté la confiance au gouvernement au mois d'avril dernier.
Oui, alors
sans illusion. Oui, mais je dirais dans le respect des engagements pris pendant la campagne électorale.
Mais enfin, il y a quand même une incohérence parce que il a appelé à voter pour l'UPF, ça c'est parfaitement clair, mais en disant moi je suis contre la cohabitation,
c'est
contre
il
une
n'est
nouvelle
pas entré
cohabitation.
Au gouvernement.
Oui, mais il a voté la confiance ensuite.
Il a voté la confiance à un gouvernement pour entreprendre une politique de redressement. À partir du moment où le gouvernement était formé, Philippe Devilliers n'avait aucune raison de s'isoler dans l'opposition. Cela n'aurait pas été compris des Français. Et surtout, cela lui aurait finalement, paradoxalement, gêné sa liberté de parole. À partir du moment où nous étions clairement dans la majorité parlementaire, mais dans la réserve, quant à l'utilité d'une seconde cohabitation, nous avions tout à fait liberté de garder la maîtrise de notre discours, et Philippe de Villiers ne s'est pas gêné pour exprimer ses différences avec le gouvernement.
Justement, moi, j'ai pas ce sentiment-là. Si vous voulez, j'ai pas le sentiment que Philippe de Villiers
Parce que malheureusement, les médias n'ont pas toujours repris autant que nous aurions souhaité nos propositions et nos réflexions. Mais par exemple, au moment de la réforme du code de la nationalité, Philippe de Villiers s'est exprimé, et pas seul d'ailleurs, avec d'autres amis députés autour de lui, des diverses familles de la majorité parlementaire, pour proposer des modifications au texte. En matière européenne,
ça n'a eu aucun
effet. Parce que nous n'avons pas réussi à convaincre la majorité des députés. Mais nous avons agi en ce sens. Et Philippe de Villiers n'était pas seul. De la même façon, sur le terrain européen, nous avons continué à mettre en garde les Français et la majorité nouvelle contre la dérive maastrichtienne, contre l'Europe fédérale que nous avions combattue lors du référendum. Et puis surtout, lors du vote sur le GATT, Philippe de Villiers a adopté une position tout à fait nette. Et là, c'est vrai, il s'est peut-être retrouvé seul, mais parce qu'il y a des moments dans la vie politique où il faut accepter d'être seul pour être fidèle à ses convictions.
Oui, mais alors, si vous l'impression que ça donne, c'est que, bon, Monsieur de Villiers dit, moi je suis contre la cohabitation se fait, et il accorde sa confiance. Ensuite, il dit, je suis
pas
contre...
Pas à Mitterrand, à Balladur.
Non, à Balladur, bon. Je suis contre le réforme du code de la nationalité telle qu'elle est proposée. On lui dit, d'accord, c'est très bien, maintenant rentrez chez vous, vous avez dit ce que vous aviez à dire, on fait ce qu'on veut.
Ensuite, il a refusé de voter le texte qui a été finalement adopté.
Alors ensuite, on lui dit sur le GATT, faites ce que vous voulez, mais c'est comme ça. Sur Maastricht, on lui dit, vous pouvez toujours dire ce que vous voulez, mais c'est comme ça. Sur l'école libre, on lui dit, écoutez, votre avis nous intéresse beaucoup, mais on n'en tiendra pas compte. Et je pense que sur le
Sénat avait pourtant voté la réforme que nous souhaitions.
Oui, d'accord. Mais moyennant quoi, le lendemain ou le surlendemain, tout le monde fait marche arrière toute. Et vous savez à quoi fait penser Philippe de Villiers? Je parle pour moi. Il me fait tout à fait penser à, vous le prenez pas mal, à Coluche dans le film 2 ans moins le quart avant Jésus-Christ. Où il conduit la révolte, et puis il arrive devant César, et il lui dit, ouais, ça va pas du tout, il faut changer tout ça, et César lui dit, vous êtes combien? Alors il lui dit, regardez, tout derrière moi, il y a tout le monde, et César lui dit, pauvre con, t'es tout seul. Et effectivement, il se retourne, et il voit que tout le monde a foutu le camp.
Peur que le ton du film, d'ailleurs, ne corresponde pas bien à la situation.
Je vous ai dit de ne pas le prendre
mal. Dramatique des choses. Figurez-vous, il n'est pas tout seul. Et nous allons le montrer au mois de juin prochain.
Alors justement, on va en parler du mois de juin,
puisque vous parliez de l'Europe.
Voilà. Alors, enfin, c'est plutôt vous qui en parliez, mais je veux bien qu'on en parle. Au contraire, c'est le fond du sujet. Enfin, c'est la question clé.
C'est effectivement le fond du débat.
Avant, on peut peut-être parler des cantonales brièvement. Vous présentez des candidats dans tous les cantons, non?
Nous ne présentons pas de candidats.
Pas de candidats.
Mais Philippe de Villiers, lui-même candidat, puisqu'il est président du conseil général de la Vendée, il a une majorité, il soutient ses candidats.
Mais il n'y a pas de candidat qui se présente sous l'étiquette
Mouvement pour les valeurs. Il n'y a pas de candidat qui se présente avec l'étiquette de Combat pour les valeurs.
Pourquoi?
Parce que nous avons décidé de faire autrement. Et de la même façon que nous n'avons pas présenté de candidats aux élections législatives, nous considérons d'abord que le mode de scrutin majoritaire uninominal à 2 tours ne permet guère l'élection de candidats présentés par un mouvement nouveau et encore modeste, il faut bien le dire, comme Combat pour les valeurs, mais je pense que nous serons beaucoup plus importants après les européennes. Par contre, les élections européennes, les élections municipales sont des scrutins où l'on peut intervenir, et pour les élections européennes, c'est manifeste, puisqu'il y a là un mode de scrutin à la proportionnelle, à un seul tour, où chaque liste obtient des suffrages, obtient des élus plus exactement en fonction des suffrages qu'elle obtient. Donc c'est un mode de scrutin qui nous convient davantage, mais il viendra un temps, ne vous inquiétez pas, où nous aborderons l'ensemble des scrutins. Pour les élections cantonales, de toute façon, c'est un scrutin local avec un enjeu non négligeable, puisqu'il s'agit de la gestion des départements, puis la décentralisation, donc de la vie quotidienne des gens. Mais malgré tout, c'est un scrutin local qui concerne souvent les notables, un scrutin notable, ce qu'on dit assez facilement. Il n'y a qu'un Français sur deux qui votera dimanche, il ne faut pas l'oublier, et les enjeux n'ont pas d'importance nationale. Par contre, là, on retrouve un débat droite-gauche classique, ce sera pas du tout le cas avec les élections européennes.
Alors, aux élections européennes, donc c'est décidé, maintenant c'est ferme et définitif, Combat pour les valeurs présentera sa liste.
Philippe de Villiers conduira une liste de la majorité aux élections européennes. Avec d'autres, venant de l'ensemble des formations de la majorité, et des femmes et des hommes venant du pays réel, allais-je dire, qui s'exprimera... de façon non artificielle, puisque je vous vois sourire.
Je vais vous dire pourquoi je souris. Je souris pour deux raisons. La première raison, c'est que le pays réel, c'est, si j'ose dire, une marque...
C'est un vocabulaire de droite.
Non, bien sûr. Je plaisante. C'est une marque déposée. Mais non, la deuxième raison pour laquelle je souris, c'est que... moi, si j'étais, ce que je suis d'ailleurs, un électeur lambda, le jour où vous arrivez devant moi en me disant « Écoutez, on va vous présenter la liste du pays réel. Premier, Monsieur Philippe de Villiers. Ça, je veux bien. Deuxième, Monsieur Goldsmith. » Je dis « Écoutez, bien tout ce que vous voulez, mais encore une fois, arrêtez de me raconter des histoires. »
Pourquoi ?
Parce que s'il y a un homme qui incarne, alors d'une façon jusqu'à la caricature, l'internationalisme, le mondialisme, c'est Monsieur...
J'ai peur que vous n'ayez pas lu son dernier livre.
J'ai lu son dernier livre. Il se trouve
le
que
piège.
Bon, oui,
édition Fixo pour nos auditeurs.
Je l'ai lu.
Livre très intéressant et qui montre l'évolution intellectuelle d'un homme.
Justement. Non, je ne crois pas du tout à cette évolution intellectuelle. Vous pouvez pas me faire croire.
Voilà pour sonder les reins et les cœurs.
Bien sûr. Mais, non, mais c'est pas du tout. Après tout, Monsieur Goldsmith fait ce qu'il veut. S'il a envie, du jour au lendemain.
À l'honnêteté intellectuelle de Jimmy Goldsmith.
De retrouver ses racines françaises, c'est son droit le plus strict.
Il a pris un temps de recul qui lui a permis de reconsidérer les choses.
Mais j'ai beaucoup de peine à croire qu'un homme de son âge puisse subir une révolution aussi radicale.
Je ne pense pas que c'est une évolution radicale. Je pense plutôt que c'est, je dirais, la réflexion d'un homme peut-être aussi désabusé, après tout, pourquoi pas, qui a connu beaucoup de gens et beaucoup de choses, et qui a analysé l'évolution du monde. Le monde a beaucoup changé, vous savez.
Enfin, quelles que soient les bonnes raisons, oui, je sais, j'ai remarqué aussi, je m'en félicite pas d'ailleurs.
Pour certaines choses, on peut trouver des points positifs.
Ah oui,
la chute du mur du Berlin, par exemple.
Je suis pas certain que ce soit une si bonne idée que ça.
Pour les pays libérés, c'est pas mal.
Je me demande s'ils ont été libérés. Vous voyez, c'est bien la question qu'il faut se poser. J'étais en Pologne en 1981. J'ai vu un pays qui était sous la botte russe, vraiment.
Hein. C'est clair.
Les gens souffraient, mais ils souffraient, je dirais, matériellement. Ils avaient faim, ils avaient froid, ils étaient malades. Ils étaient humiliés de voir leur pays subir cette espèce de dictature soviétique. Mais aujourd'hui, la Pologne, c'est un pays qui souffre dans son âme. Quand vous allez à Varsovie maintenant, vous avez sur les murs des photos pornographiques, les kiosques à journaux qui étaient des kiosques qui présentaient de la presse catholique à l'époque contre le régime communiste, aujourd'hui présentent des journaux pornographiques. Alors, je me demande...
Comme quoi le combat pour les valeurs a des raisons d'être au-delà de la France.
Oui, absolument. Et je me demande vraiment si, finalement... quand on a fait tomber le mur de Berlin, on a cru pendant un moment que c'était un grand courant de liberté qui allait souffler sur les pays de l'Est. Je suis pas certain que ce soit exactement ce qui s'est passé.
C'est pourquoi il ne faut pas laisser ces pays s'enfoncer dans le désespoir, et c'est la raison pour laquelle nous battons, nous, pour une Europe des peuples, des nations libres, ouvertes à tous, et notamment à nos frères de l'Europe de l'Est.
Alors, vous m'excusez de faire un petit peu de politique politicienne, mais j'ai donné les deux noms. Ça, c'est pas très savant de ma part, Philippe de Villiers et Monsieur Goldsmith. Le troisième nom, est-ce que la liste est...
Nom a valeur de symbole, puisque c'est un nom célèbre, il s'appelle Charles de Gaulle.
Oui, voilà.
Il a annoncé lui-même sa candidature, ça a fait l'objet de parutions dans la presse, et je crois que c'est tout un symbole.
Moi, j'ai connu
Pour Charles des de... gens qui se battent pour l'Europe des peuples, l'Europe des nations.
J'ai connu Charles
nations.
De Gaulle quand il était tout jeune, avocat chez monsieur, avocat débutant chez monsieur chez maître Le Marchand.
Oh mon Dieu.
Et qu'il allait jouer au flipper dans le bistrot qui était en bas du cabinet.
Il faut que jeunesse le passe.
Non, mais je sais pas du tout un reproche que je lui fais. Moi-même, j'allais jouer au flipper, donc vous voyez, hein, c'est pas un crime de jouer au flipper, c'est pas ce que je veux dire. Mais, je dois dire que, à l'époque, ça nous faisait beaucoup rire de voir Charles de Gaulle jouer au flipper. Et maintenant, je dirais pas que ça nous fait beaucoup rire de voir Charles de Gaulle sur la liste de Philippe de Villiers.
Non, mais nous, ça nous fait beaucoup plaisir.
Oui, ça, j'imagine que c'est pour ça que vous l'avez fait, d'ailleurs. Alors, justement...
Je rappelle qu'il est d'ailleurs député sortant. Ce qui montre là aussi que nous ne sommes pas isolés parmi la classe politique de la majorité.
Il est député sortant...
Du Parlement européen.
Du Parlement européen.
Il était élu à Strasbourg.
Il était sous quelle étiquette?
Il était sur la liste d'union conduite par le président Giscard d'Estaing en 89.
Alors justement, la question s'impose. Je ne vais pas vous demander de décliner votre liste, à moins que vous ayez d'autres noms à nous donner.
Le moment venu, la liste sera présentée, lors du Palais des Congrès à Paris, le 1er juin prochain, où Philippe de Villiers s'adressera au pays et à tous nos sympathisants, tous nos militants, avec l'ensemble de la liste. Mais vous aurez différentes étapes, notamment une réunion publique au Palais des Congrès de Versailles, cette fois, le 7 avril prochain, où il annoncera un certain nombre de choses. Je rappelle d'ailleurs pour nos auditeurs, et parce que je suis le délégué du Val-d'Oise de Combat pour les Valeurs, que Philippe de Villiers est venu dans le Val-d'Oise il y a quelques jours, à Pontoise, le 2 mars dernier, et il a ce jour-là présenté son directeur de campagne, Hervé Fabre-Aubrespy, élément moteur de notre liste, secrétaire national du RPR.
Alors justement, en admettant que vous ayez des élus, et je pense que vous en aurez, le bon sens quand même commande de le penser.
C'est pourquoi nous faisons campagne.
Voilà, mais qu'est-ce qu'ils vont faire ces élus une fois qu'ils seront élus?
Ils siégeront.
Oui,
c'est une originalité.
Où vont-ils siéger?
Ils siégeront au Parlement de Strasbourg avec leurs collègues de tous les pays de la communauté, nous préférons dire.
Oui, mais dans quel groupe?
Dans le groupe de celles et ceux qui sont convaincus que faire l'Europe, ce n'est pas défaire les identités nationales. Et croyez-moi, ce groupe se fera entendre dans le prochain Parlement européen.
C'est-à-dire que... Donc vous allez siéger... Il pourrait siéger avec le Front National, par exemple avec le groupe des droites européennes.
Nous formerons un groupe avec tous nos amis.
Vous allez vous retrouver dans cette
situation... Je ne parle pas des groupes actuels.
Non, j'entends bien.
Qui ne correspondent pas d'ailleurs aux divisions de la vie politique française.
Oui, on se demande d'ailleurs à quoi ils correspondent en réalité.
Parce qu'on nous dit que les gaullistes vont aller siéger au groupe centriste. Ça ne nous paraît pas très plausible. Ou alors c'est qu'il
y a eu
des conversions.
En bonne logique, les gaullistes devraient siéger à gauche, puisque si on lit l'œuvre du général de Gaulle, le général de Gaulle est un homme de gauche.
Oui, j'ai peur que là vous ne fassiez pas l'unanimité sur ce sujet. Mais en tout cas... sérieusement, je crois qu'effectivement, les élus qui se réclament de l'héritage européen du général de Gaulle, je ne parle pas d'autre chose, se retrouveront avec nous.
Oui, ça veut dire que vous allez donc siéger, vous allez former un groupe avec des gens contre lesquels vous allez vous présenter.
Pas du tout. Pourquoi voulez-vous qu'on forme un groupe avec des gens?
La liste, il va y avoir... Qu'il y ait une liste unique,
mais vous savez, par M. Deniau, ou qu'il n'y en ait pas... Que les groupes formés au Parlement européen doivent, juridiquement d'ailleurs, regrouper des parlementaires de différentes origines nationales.
Oui, tout à fait.
Il y aura donc des élus des différents pays de l'Europe dans ce groupe. Vous n'aurez pas échappé qu'actuellement, il se passe des choses dans l'ensemble de l'Europe, et pas seulement en France. Et c'est ça, la nouveauté. Il se passe des choses en Italie, on en parle beaucoup. Il se passe des choses en Angleterre, on en parle beaucoup. Des choses en Allemagne, surtout. Il y a là-bas une liste qui se prépare dans le même esprit que le nôtre, notamment à partir de la droite bavaroise. L'honneur de la droite en Allemagne, je crois, vient toujours de la Bavière. Je dis bien de la droite, pas de confusion historique. L'occurrence...
Ceux à quoi vous faites allusion sont les socialistes.
Nous, c'est clair. Mais pas pour nous. De ce point de vue-là, l'alliance des citoyens libres qui se constitue en Bavière d'abord et qui regroupe des Allemands de l'ensemble de la République fédérale montre bien que notre combat est européen.
Est-ce que Berlusconi est une espèce de Philippe de Villiers italien?
Je n'ai pas le sentiment que M. Berlusconi soit tout à fait dans et notre façon d'aborder les choses. En tout cas, j'ai l'impression qu'il a évolué. Mais pour autant, pour l'instant, il semble surtout se préoccuper du débat politique intérieur dans son pays. Alors, pour les européennes, je ne sais pas ce qu'il fera. Je ne doute pas qu'il y aura des listes proches de nos convictions en Italie.
Sur combien d'élus tablez-vous ?
Le plus possible.
Oui, merci. Si vous pouvez voter
à la faveur
la langue
des bois. Mais pas la langue de bois. Je fais confiance aux électeurs.
Non, sérieusement, je pense que vous avez étudié la question. 10, 15...
Vous savez, c'est pas comme ça qu'on peut compter, parce que ça dépend du rapport de force entre les listes. Toutes les listes qui obtiennent 5% ont des élus. À partir de là, la répartition se fait entre les listes qui ont obtenu 5%.
C'est vrai.
Je ne peux pas savoir aujourd'hui combien de listes obtiendront 5%.
Bien, bah écoutez, je vous remercie.
Oui, tiens.
Oui, je vous en prie.
Des questions, non ?
Oui, enfin, il y a beaucoup de réactions. Le mouvement pour les valeurs...
Pardon, mais c'est vrai qu'un auditeur me dit vous ne devriez pas inviter les représentants de M. De Villiers. Alors, vous voyez comme c'est difficile de faire plaisir à tout le monde. Il y a une dame qui me dit inviter les représentants
de M. De Villiers. C'est une émission libre, j'avais cru
voilà,
comprendre.
Oui, exactement.
Faites par un homme libre.
Ma liberté, c'est d'inviter qui je veux, je l'ai déjà dit. Et puis, je trouve
que heureux.
C'est intéressant de vous écouter.
Merci.
Alors, je peux dire
un mot
là...
Non, je crois qu'on est
oui,
en limite
juste...
de temps.
Après, non.
Oui, après.
En tout cas, merci, monsieur de Becquet.
Ne partez pas, on a encore une question.
Quelques questions d'auditeurs.
Je vous en prie.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, voici le libre journal de Serge de Bekech, assisté de Victoria, un document du 16 mars 1994. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris. Attention, exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris.
Alors, vous avez entendu l'arbre celtique, je vous avais prévenu. Hein.
C'est très joli.
Si ça vous a plu, on peut en remettre encore. On peut faire... Voilà.
Arrêtez, vous allez avoir 300 000 messages.
Écoutez, j'ai rien contre les
singes. Oui, je ne veux pas.
J'aime bien la croix celtique, c'est d'accord. Mais l'arbre celtique, c'est moins rigolo quand même que la croix celtique. Hein, on peut un petit bout, non ? Encore ? Non ? Même le lecteur, il veut plus. Voilà. Oh là là. Hein ? Heureusement qu'ils savaient aussi manier la hache, parce que pour l'harpe, ils sont assez moyens. Enfin bref. Oui, j'ai une question qui est revenue plusieurs fois, à laquelle je voudrais répondre avant de donner la parole de nouveau à M. Lescaret. C'est celle du débat. On me dit, mais vous aviez Karl Lang et vous avez M. Lescaret, pourquoi vous n'avez pas fait débattre ? Mais la raison est extrêmement simple, c'est que, comme le disait M. Lescaret à l'instant, un débat dans lequel l'arbitre est partie prenante, ça colle pas. Donc c'est évident que j'aurais pas pu être un arbitre honnête, en tout cas, comment dirais-je, impartial dans ce débat. C'est la raison pour laquelle j'organise pas de débat dans cette émission, parce que je prends parti. Je peux pas me retenir de prendre parti. Alors, un débat dans lequel l'animateur prend parti, c'est un débat truqué. Voilà pourquoi. Il y avait des questions.
Alors, il y en a beaucoup, mais on peut en prendre une surtout. C'est un auditeur qui dit « Électeur du Front National, je me sens assez proche du mouvement de Philippe de Villiers. Vous sentez-vous plus proche du centre droit ou du Front National ?» Première question.
Je me sens surtout proche de Philippe de Villiers, figurez-vous. Et du combat que nous menons, sans exclusive et sans exclusion, avec tous ceux qui veulent bien travailler avec nous.
Et si vous aviez eu à voter à Nice ? La deuxième partie de la question. Si vous aviez eu à voter à Nice, comment auriez-vous réagi ? Le mouvement pour les valeurs a-t-il participé au front républicain antinational ?
Le vote est secret, c'est un élément essentiel de la démocratie.
Et
il y a eu des
instructions données
par les partis.
Je peux me tromper, mais je n'ai pas le souvenir que Philippe de Villiers ait pris position dans cette affaire. Bon, il faut quand même retenir à décharge les éléments qui sont à décharge. Je sais bien que je suis pas un bon juge, mais enfin quand même. Quelle différence y a-t-il entre le Front National et le Combat pour les Valeurs? Ben, si vous voulez, on vous fera une émission complète là-dessus dans quelques semaines.
Alors, je garde les questions, là.
Merci. Alors, à votre disposition, en tout cas.
Merci, monsieur Lescaret, de
nos idées et notre combat.
De votre visite. Puis, de toute façon, moi, je vais vous dire quand même une chose. Même si je suis pas d'accord avec De Villiers, surtout, c'est quand même lui qui a organisé la venue de Solzhenitsyn au Luc. Et bon, ben, ça,
c'est notre fierté d'Européens.
Voilà, c'est bien, c'est bien. Même de Français, vous pouvez dire.
Bien sûr.
Merci.
Bonsoir, merci.
Bonsoir, monsieur l'abbé, si vous voulez prendre place. Monsieur Pascal Théry, si vous voulez accompagner monsieur l'abbé. Monsieur l'abbé, c'est monsieur l'abbé Argouache, qu'on connaît, qui est supérieur de la... Alors, vous allez le dire, parce que à chaque fois, moi, je me... Entre Riomont, le village pour des enfants...
Oui, on a notre... plusieurs casquettes. Le village d'enfants de Riomont, et puis la Sainte-Croix de Riomont.
La Sainte-Croix, voilà. Et puis, Pascal Théry vient comme co-organisateur d'un pèlerinage, c'est bien ça? Alors, on va parler de tout ça. Mais d'abord, je voudrais des nouvelles du village.
Riomont se porte bien, d'abord parce que le beau temps est revenu, avec 4 mois de pluie dans ce bourbier qui est Riomont, parce que c'est un ancien champ de bataille. Je peux vous dire qu'on s'imagine la détresse de tous ces gens qui ont combattu en 14-18 sur ce terrain, c'est épouvantable, et on comprend que certains se soient noyés dans les trous et n'aient pas pu remonter ces trous.
Là, vous la vivez sur le terrain,
oui,
vous,
c'est vraiment
vous partagez.
De l'argile, et le village a ses fondations dans cette argile, c'est pour ça que nos terrains d'ailleurs bougent beaucoup. Est-ce qu'il y a les mines et puis les sapes allemandes? Et vraiment, on nous avait dit, il ne faut pas construire sur cette colline, ça va s'écrouler. Et le père Revet s'est accroché à cette colline.
Mais il est dit, malheur à celui qui bâtit sur le sable, mais il n'est pas question de la terre.
Mais il a injecté des pierres dans cette argile, et on arrivait à certains moments à toucher des couches de craie, qui servaient d'ailleurs pour ces souterrains.
Et vous êtes au cœur d'un des très hauts lieux de la guerre de 14-18, puisque dans le jardin, enfin dans le parc de Riomont, vous avez pu reconstituer une ancienne tranchée, ce qui montre que...
Oui, on a reconstitué une ancienne tranchée, et d'ailleurs, je crois que c'est la première fois que j'en parle, il y a des squelettes de soldats qui sont à Riomont, et ont pris sur des corps qui sont encore là, qui reposent.
Ah,
et ça donne tout un symbole aussi à cette tour que je veux construire, qui doit répondre à celle de Lorette, qui rappelle la présence incontournable de nos morts, de ceux qui sont morts pour la France. Cette tour qui évoquera les scouts tombés en Indochine, en Algérie, et surtout les champs de bataille. Et alors j'ai l'idée, j'espère que le bon Dieu me permettra de la réaliser, et puis aussi ceux qui m'aideront, de faire une carte de France au sol, et de faire une énorme croix potencée sur cette carte de France où on mettra le nom de tous ces garçons, la fleur de la jeunesse française qui a donné sa vie. Et au fond, dans ce marasme actuel, dans tout ce qu'on peut entendre, je me dis, c'est peut-être là, tous ces jeunes qui sont au ciel, eh bien, c'est peut-être vers eux qu'il faut se tourner maintenant pour qu'ils suscitent des vocations magnifiques et surtout des vocations religieuses. Parce que le combat, c'est vraiment le combat entre la lumière et les ténèbres, et il nous faut des saints.
Tous ces jeunes qui ont donné leur vie, qui la donnent encore, puisque je rappelle que Eflam de Penanster, qui est tombé en Somalie il y a un an, était un ancien de Riomont. Il était scout.
Un garçon, un
routier et ancien de Riomont.
Un scout de Riomont. Il a donné sa vie pour la France, et c'est très beau, et nous sommes très heureux d'avoir donné ce garçon pour la France.
Alors, mon père, on parle du village d'enfants depuis longtemps dans cette émission, mais il y a de nouveaux auditeurs sans arrêt, et j'aimerais bien que vous nous résumiez brièvement, ou pas brièvement d'ailleurs, vous avez le temps que vous voulez, nous disiez ce que c'est que ce village d'enfants, quelle était l'inspiration de son fondateur, et quelle est l'ambition de des successeurs du père Revet.
Je crois que le père Revet, quand il était tout petit, rêvait, je crois déjà, de ce village d'enfants. Et puis la Providence a voulu qu'il arrive sur cette colline. Et puis il a recueilli des enfants qui avaient des problèmes, de nombreux enfants. À ce moment-là, le ministère de la Justice était très intéressé par l'œuvre du Père Revet, qui était originale, puisqu'il y avait ce scoutisme, le sens de l'aventure, du rêve, la poésie. Il intéressait les enfants à l'histoire de France. Il leur donnait tout notre patrimoine avec beaucoup de vigueur. Il avait un feu sacré pour ça. On l'écoutait pendant des heures. On était à côté du Père Revet, il vous faisait passer l'histoire de France. On ressentait et on avait l'impression qu'on était avec Sainte Jeanne d'Arc, qu'on combattait avec elle et tout cela.
Avec un sens de l'image extraordinaire, voilà, un sens, voilà, du décor.
Et il prenait des objets d'ailleurs, et il racontait une histoire, par exemple, devant la plaque d'âtre de l'hôtel des Mousquetaires du Roi. Il se mettait devant, il était comme un mousquetaire et il nous évoquait l'histoire de France. Faut imaginer, pour tous ces enfants, c'était un trésor. Et puis, bien sûr, on sait par ailleurs que ce trésor, on a voulu nous le prendre, nous le voler, le détruire surtout. Et ce village qui était un village de rêve, on a voulu le supprimer. Et il y a eu d'autres batailles sur cette colline pour le défendre.
Alors maintenant, donc c'est un lieu où vous accueillez dans des conditions qui relèvent du miracle quotidien, il faut le dire, des gosses. Des enfants déshérités, des enfants de ménages désunis, des enfants à problème.
J'ai aussi de plus en plus de demandes de parents qui sont unis devant la catastrophe morale actuelle. Et actuellement, je ne peux plus recevoir d'enfants. J'ai 90 demandes d'inscription au village de Riomont, ferme, que je suis obligé de refuser. Et c'est un grand malheur. C'est un grand malheur. Et j'évite de prendre le téléphone, parce que j'ai du mal à dire non. Mais j'ai aussi des impératifs de sécurité sur ce village de Riomont. C'est terrible. Et il faudrait faire beaucoup plus, c'est sûr. Et on pourrait faire d'autres Riomont, mais pour faire d'autres Riomont, il faudrait qu'il y ait d'autres vocations, d'autres jeunes qui s'intéressent à cette œuvre.
Alors il faut dire aussi que c'est un véritable village, c'est-à-dire il y a une ferme, il y a une superbe chapelle qui est vraiment magnifique, il y a des maisons qui ressemblent à des maisons de village de Blanche-Neige, il y a un château fort, c'est un endroit pour un enfant incroyable. Quand on arrive là-dedans, on se retrouve, même un vieux monsieur comme moi, et le père immédiatement 35 ans se retrouve gosse à avoir envie de jouer, d'escalader les murs du château fort. C'est un endroit merveilleux pour les gosses.
C'est vrai qu'avec ses pavés du Nord, avec beaucoup d'amour, le Père Revet a su faire, je crois, du médiéval. Il a fait c'est du roman contemporain. C'est assez extraordinaire et ça va continuer puisqu'on a beaucoup de projets et on avait loué certains bâtiments de l'autre côté de la propriété qu'on va récupérer le 30 juin. Eh bien, il y a un bâtiment qui est magnifique, qui s'appelle Beau Manoir, où il y a un tas de cheminées. On va récupérer ces bâtiments. Et je crois que le Père Revet a voulu donner à la région, mais aussi à la France, un village, comme il y avait des petits villages du 12e siècle, du 13e siècle, avec ses habitants, avec ses animaux et avec son esprit surtout de chrétienté, parce que c'est ça qui cristallise autour de Riomont tant et tant et tant d'énergie. C'est parce que c'est un village de chrétienté. Une sortie de messe à Riomont, c'est très sympathique, surtout quand on voit les poules qui se baladent à côté de vous, et le tas de fumier qui est très présent, notre coq qui fait cocorico. Ben c'est vrai que c'est ça la France profonde.
Et ce qui est extraordinaire, c'est quand on sort, à peine sortons de cette espèce d'enclave. C'est une île couverte d'arbres, et quand on sort, on tombe dans le décor effrayant des corons avec des gosses à l'abandon. Enfin,
alors on rénove actuellement beaucoup les corons. On les rénove. Il y a un effort très important qui est fait d'ailleurs par le député maire de Liévin. Il y a un effort très très important, mais les problèmes sociaux sont très 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 nombreux. Et quand on s'était quitté la dernière fois, je sais que le lendemain il y avait eu un accident de voiture la nuit, et les enfants qui conduisait cette voiture, il y a eu 3 morts et un qui lutte entre la vie et la mort, ces enfants de 13 ans et 14 ans.
du village, du coin.
Qui était de Lens.
Il
avait volé une voiture en pleine nuit. Et vous voyez, c'est terrible parce que on voit ces jeunes de 13-14 ans on a l'impression de se retrouver au Far West. Encore au Far West, il y avait un certain nombre de règles qui étaient respectées. Tandis que là, ce sont vraiment des enfants qui sont livrés totalement à eux-mêmes et ça ira qu'en pirant.
Et ce qui est terrible, encore plus terrible, c'est que on a la preuve par l'expérience vécue chez vous qu'il faut rien pour sauver ces gosses. Et je me souviens que cette scène qui m'avait frappé et que j'ai déjà raconté, c'est quand vous avez découvert des trois mômes qui étaient venus tout simplement piller Riomont et vous les avez pris en main et deux jours plus tard ils étaient en uniforme de scout, ils avaient la culotte de cuir et
absolument, ils ont fait du scoutisme. Mais l'histoire, je vais vous donner la fin de l'histoire parce que un de ces garçons a fait du scoutisme, mais il était à l'école qui est pas loin de chez nous et bien sûr avec les problèmes moraux qui existent et un tas d'autres problèmes, eh bien il est devenu complètement fermé. Et il était dans un état épouvantable, ses parents pleuraient, etc. Et déjà, il voulait rentrer à Riomont. Et on lui avait dit non, tu peux pratiquer le scoutisme, mais ne viens pas à Riomont, tes parents habitent à 500 mètres de Riomont. Et ses parents sont unis. Et en fait, on aurait dû l'écouter, parce qu'au fond de lui-même, il sentait qu'il avait besoin de Riomont. Et il s'est sauvé, ça a été épouvantable, il est parti en fugue, etc. Et là, maman est revenue me voir en pleurant, en disant, mais qu'est-ce que je vais faire avec mon fils? Il ne veut plus aller à l'école, il se sauve, il ne veut plus revenir chez nous. Et alors j'ai dit, bah, écoutez, on va lui demander s'il veut venir à Riomont. Et il est à Riomont maintenant, vous verriez ce garçon rayonnant. Seulement, il vient du camp de ski, il s'est cassé la jambe. Dire que Riomont, c'est assez viril. Et donc, il le savait, hein, il savait ce qu'il risquait. Et au fond, ce garçon, eh bien, maintenant, est épanoui. Et je crois que... Je suis content que vous ayez évoqué cette histoire, parce que c'est vraiment le symbole de Riomont, le symbole de l'espérance. Ce garçon, maintenant, est rayonnant, il est épanoui, il a retrouvé... et il invite maintenant chez lui des camarades de Riomont, et par osmose... si vous voulez, la chrétienté de Riomont continue et s'élargit sur des familles qui sont tout près.
Alors, si on veut voir Riomont, si on veut visiter, si on veut connaître, il y a un moyen très simple, c'est d'y aller très prochainement. C'est au mois de juin.
Alors, le 25 juin, on fait un son et lumière la dernière fois, il y avait à peu près 3 500 personnes. Là, j'entends dire qu'il y a beaucoup de cars qui viennent de partout, puisqu'il y a déjà un car qui est prévu de Saint-Étienne, il y a des cars qui sont prévus de Paris, de Belgique. Et ce sera un rassemblement extraordinaire de la jeunesse française autour du thème qui sera l'appel des cathédrales. Et on veut faire ressonner toutes ces cathédrales. On m'a proposé d'ailleurs des enregistrements de toutes les cloches des cathédrales de France. Mais notre désir, on en parlera sûrement tout à l'heure avec Reims, ce serait que le 25 décembre 1996, toutes les cathédrales de France se mettent à sonner. Au fond, le cœur de la France, c'est Reims, et ça paraît impensable, malgré tous les clivages qui existent, politiques et religieux, que la France ne fasse pas sonner toutes ses chapelles, toutes ses églises et toutes ses cathédrales. Et le thème, l'appel des cathédrales, pour nous, c'est un petit peu un tremplin aussi pour cette marche vers Reims qui doit nous laver de tous nos péchés, qui doit rendre la France à Jésus-Christ.
Alors, on va parler du pèlerinage de Reims tout de suite, mais avant, je voudrais que vous nous disiez deux choses. La première, c'est les dates précises de ces journées, de cette grande fête, de ce grand feu de camp, car c'est un grand feu de camp. Il faut imaginer ce que c'est. Bon, alors, il faut voir la cassette du précédent. C'est renversant, parce que c'est hollywoodien. Vous mettez en marche des moyens incroyables, vous construisez des décors, des costumes. Enfin, il faut vraiment voir ça.
Je dois rendre justice quand même à Philippe de Villiers, sans parler politique. C'est quand même lui qui, un des premiers, a su évoquer l'histoire d'un peuple, l'histoire de la Vendée, à travers le Puy du Fou. Et quand j'ai vu le Puy du Fou, quand j'ai vu tous les habitants qui jouaient, je me suis dit, mais Riomont, c'est un petit village. Comme il y a là-bas les épaisses, les herbiers, tous les puits follets, et ce petit village d'enfants, lui aussi, il doit s'exprimer et il doit faire passer le message de la France éternelle à tous les gens qui voudront, mais surtout aussi à la jeunesse. Et donc, pour revenir à quelque chose de plus concret, C'est donc le samedi 25 juin. Il y aura donc l'inauguration de cette tour et de ce monument, la tour Saint-Jean-Baptiste, monument dédié aux scouts morts pour la France. Et puis, il y aura des expositions. Il y a une exposition sur les aumôniers pendant la guerre 14-18 qui est très émouvante. On nous donne des objets extraordinaires. Je vous garantis que cette exposition sera très 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 belle. Et puis, il y a une exposition sur la chasublerie, sur l'art sacré. Alors, et puis, là, il y a plein de stands.
Si vous permettez, je voudrais dire quelque chose, parce que vous ne le direz pas. C'est que vous êtes un chineur d'art sacré. Vous passez votre temps à aller partout où on vend, d'une façon assez scandaleuse d'ailleurs, des objets d'art sacré pour en faire n'importe quoi, des pots de fleurs, des doubles rideaux, et vous rachetez ça en payant avec votre sang, on peut le dire vraiment.
Vous savez, c'est j'ai pas
et
de mérite.
Vous sauvez,
j'ai pas de mérite, c'est le père Revet qui m'a emmené au puce, j'avais 21 ans, porte de Saint-Ouen, porte de Clignancourt, et on faisait partie avec le père Revet du paysage des puces. Tous les puciers nous connaissaient. Alors on faisait partie du paysage, donc on nous faisait plaisir. « Oh, mon père, tenez, ça c'est pour vous, c'est pour votre village d'enfants. Et puis on sait que vous aimez bien telle chose. » Alors on nous l'a donné. On a eu des choses étonnantes. Alors moi j'ai continué. J'étais un petit peu orphelin parce que quand je me promenais au puce après, le père Revet était parti. Et j'avais l'impression qu'il marchait à côté de moi. Et je chinais effectivement. Et c'est vrai que certains objets, ils attendent notre venue pour les sauver. Et ça, j'en ai eu le témoignage plusieurs fois.
Alors, revenons, vous disiez qu'il y avait il y aura des stands.
Alors, il y aura des stands dans le style des kermesses d'autrefois. Mm-hmm. Il y a un repas gigantesque pour la dernière fois. Il devait y avoir 1600 repas ou 1800 repas qui ont été servis. Donc, c'est un repas comme on en faisait dans la vieille France.
C'est Astérix.
Voilà. Et c'est.
Il n'y a pas de sanglier, maîtresse.
Non, mais vous verrez parce qu'on va évoquer les cathédrales, hein, des repas gigantesques avec des plateaux qui seront présentés avec des animaux, etc. On verra tout ce système des corporations qui vivaient autour des cathédrales. Et puis alors, on verra l'histoire des cathédrales, si vous voulez, à travers les mystères joyeux, douloureux et glorieux des cathédrales. Et alors, on construit une cathédrale actuellement, avec un échafaudage énorme, on construit une cathédrale qui aura au moins 20 mètres de haut. Et les décors seront étonnants, vous verrez, comme chaque fois. Et tout le monde s'y met. Tous les week-ends, à Riomont, il y a des dames qui viennent faire des costumes médiévaux. Il y a des hommes qui creusent. C'est une sorte de ruche permanente. Et on récupère des gens qui viennent de partout. Dis-moi, moi aussi, père, je veux vous aider. Mais vous pratiquez pas, vous. Non, mais moi, ça me suffit. L'ambiance. J'aime beaucoup Riomont. Mon père, vous pouvez m'appeler à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Je viendrai si c'est pour Riomont. C'est curieux, ça s'explique pas. Et je pense que c'est aussi dû à toute cette prière qu'a laissée sur cette terre le père Revet. C'est vrai que c'est un lieu béni.
Alors il faut ajouter une chose qu'on n'a pas dite depuis le début, mais c'est que ces enfants sont encadrés par des frères. Vous avez comment appelle-t-on ça? Je trouve jamais le mot. C'est pas une congrégation.
C'est un institut.
C'est un institut, c'est ça. Donc vous avez combien de frères en ce moment?
On est une dizaine.
Une dizaine. Mmh. Et vous cherchez des... Vous êtes prêt à recevoir des postulants, j'imagine.
Oui, mais il faut savoir que c'est une vocation qui est très dure et que les postulants et les novices sont des premiers de cordée. Et c'est vrai que on leur demande beaucoup. Et
c'est entre l'ascète et le parachutiste.
Il y a un mélange des deux. Hein. C'est vrai que c'est costaud et c'est très physique.
Il ne faut pas avoir peur du froid. Il ne faut pas avoir peur de l'humidité. Il ne faut pas avoir peur du boulot. Il ne faut pas être trop gourmand quand même.
En carême, non, mais...
Oui, c'est ça. Mais même hors carême, on peut pas dire que quand même ça soit aussi.
On mange bien, évidemment. Je crois que le père Revet tenait...
mange à sa faim.
Oui, c'est ça, voilà ce que je veux dire. C'est, oui. c'est de l'ordre des...
Il n'y a pas beaucoup d'ortolans.
Non, voilà. Non.
Bon. C'est pas des moines de boîte de camembert qui est chez vous, c'est ça que je voulais dire.
Grâce à tous nos amis, on a des camemberts et on les aime beaucoup. Vous savez, je vous l'ai dit la dernière fois à cette radio, c'est que c'est très touchant que tout ce que nous avons, tout ce que nous mangeons a été donné. Ouais. Je n'achète rien. Ça, c'est merveilleux. C'est le bon Dieu vraiment extraordinaire parce que c'est une preuve de l'existence de Dieu tous les jours. Nous sommes vraiment entre ses mains et tous les jours, je fais manger 80, 90 personnes.
Quand vous dites le bénédicité, c'est pas des paroles verbales.
Non, c'est... Non, on le demande chaque fois, mais... Je crois qu'il faut le demander avec beaucoup, beaucoup d'esprit surnaturel aussi. Et puis, on demande chaque fois notre pain quotidien, mais je disais dernièrement, il faut demander aussi notre hostie quotidienne. Parce que ce qui est essentiel, c'est le pain vivant qui est descendu du ciel. Il faut demander chaque hostie aussi.
Comment les enfants réagissent-ils à ce discours qui est complètement hors du temps, enfin hors de la contemporanéité? C'est comme ça qu'on dit quand on est chic, je crois. Quand on est sur Arte, ça doit être ça qu'on dit.
Moi, je crois que les enfants réagissent bien. C'est une famille, Rieumont, c'est une famille. Moi, je leur explique ce qui se passe aujourd'hui. Ils sont confrontés aussi à tous ces problèmes moraux. Et bien sûr, je suis obligé de les préparer et à la vie. Et bien sûr, c'est pas facile. Là, je téléphonais tout à l'heure, on me disait, il y en a deux qui se sont battus, qu'est-ce qu'ils sont mis comme trempe, etc. Il y a une dame qui est intervenue entre les deux, qui était inconnue, qui était là, non, elle a mis une trempe à un des deux. Alors, d'ici à ce que je sois attaqué, alors que c'était une personne qu'on ne connaissait absolument pas. Mais le garçon, ayant vu qu'il avait déplu à quelqu'un de l'extérieur, c'est confondu en excuses. C'est un garçon qui est très nerveux. Il faudrait tout le temps être derrière lui. C'est un des garçons d'ailleurs qui est, je n'ai pas peur de le dire, qui a été sauvé par Rieumont. Je reste très humble en le disant. Enfin, par le père Revet, par la méthode d'éducation. Et ce garçon a été extraordinaire. Le frère m'a dit, mais il s'est confondu en excuses. Il a demandé pardon et il est reparti sur le chantier et portait une brouette de béton. Et bon, c'est vrai qu'aussi, ils sont intéressés à la construction du village. Ça représente pour Rieumont un effort fantastique de la part de ces garçons qui aiment. J'entends pas de mauvais esprit sur un chantier. J'entends pas de mauvais esprit quand ils font du jardinage. Et c'est ça aussi, peut-être le titre de noblesse de Rieumont, c'est de savoir qu'on est heureux.
C'est une chevalerie. Et je vais dire une chose, mon fils cadet qui était à Rieumont pendant un an et qui en a été transfiguré, c'est vrai, est en train de terminer son service militaire et il m'a dit, en rentrant du service, je vais appeler le père Argouache pour aller à Rieumont pour me nettoyer. C'est quand même tout à fait étonnant.
Oui, Rieumont, c'est la douche.
Un an au service militaire, apparemment, l'an passé. Alors, les auditeurs demandent où est Rieumont, et bien c'est dans la banlieue de Lens, c'est à 2 heures de Paris par l'autoroute du Nord.
Oui, l'autoroute passe directement à Liévin. Voilà. En fait, c'est à 3 km. La gare SNCF, c'est Lens. Et on va toujours chercher d'ailleurs les gens à la gare, ceux qui veulent venir. Et puis, la ville, c'est Liévin. Mais à partir de l'année prochaine, j'aurai quand même plus de locaux pour faire des hôtelleries et pour recevoir les gens qui voudraient venir 2-3 jours avec nous, partager notre vie toute simple du village d'enfants.
Voilà. Puis après tout, il n'y a pas de raison. On est en carême. Pour ceux qui n'auraient pas envoyé d'argent au CCFD, il faut que vous nous donniez une adresse à laquelle ils peuvent envoyer des sous.
Association Notre-Dame de Rieumont, CCP 3100-04-F Lille.
3100-04-F Lille. Voilà. Alors. On va parler. Est-ce que Marc Dem est avec nous? Il a patienté jusqu'à présent. Oh là là, Marc, vous êtes un homme d'une rare bonté et d'une rare patience surtout.
J'écoutais avec intérêt.
C'est intéressant, oui. Comment allez-vous, mon cher Marc? Nous ne vous avons pas eu la semaine dernière à la suite d'un malentendu.
Oui, oui.
Mais enfin, bon.
C'est dommage, j'avais de bonnes nouvelles pour une fois.
Ah.
Mais tant pis, hein.
Et ce soir, vous n'en avez que des nouvelles? Que des mauvaises?
Non.
Bon, alors, s'il vous plaît. Si vous voulez nous donner quelques nouvelles extraites de votre excellente lettre confidentielle d'information religieuse qui s'appelle Iota Unum et que l'on peut se procurer en envoyant une carte de visite à la boîte postale 52 78 101 Saint-Germain-en-Laye CEDEX, nous vous écoutons.
Oui, alors le 25 mars, ce sera le 5e anniversaire de Iota Unum.
Le 5e?
Le cinquième.
Cinquième. Avant, j'avais compris le 25e. Je me disais, oh là là, qu'est-ce qu'on vieillit vite.
Donc, ça fait 5 ans, jour pour jour, que nous paraissons de façon hebdomadaire. Alors, j'ai pensé faire un petit peu de déontologie, si vous voulez, et donner quelques citations intéressantes à propos des gens qui disent que nous ne sommes pas charitables, Iota Unum est toujours en train de critiquer, etc. Alors, il y a des citations extrêmement intéressantes, comme celle de Sainte Catherine de Sienne, qui disait, et vous savez qu'elle n'avait pas sa langue dans sa poche, pour dénoncer les abus dans la Sainte Église, utiliser « Il faut parler, le silence pourrit tout
mmh, ». Mmh.
Il y a aussi saint François de Sales, notre saint patron. « Sachez que Dieu est la paix de ceux qu'il a destinés à la guerre. Il est le Dieu des armées et des batailles, aussi bien que le Dieu de paix. » Et puis il y en a comme ça une certaine quantité, dont saint Augustin, hein, saint Augustin, qui est tout à fait d'accord avec Iota Unum, j'ose le dire, hein, et qui dit ceci, « Qui oserait dire que la vérité doit demeurer désarmée contre le mensonge et qu'il sera permis aux ennemis de la foi d'effrayer les fidèles par des paroles fortes et de les réjouir par des rencontres d'esprit agréables. Mais que les catholiques, donc, qui oserait dire aussi que les catholiques ne doivent écrire qu'avec une froideur de style qui endorme les lecteurs. » Et on voit que, d'après tous les grands saints, nos devanciers et tous les grands prédicateurs, eh bien, il faut savoir manier l'ironie et que c'est, il y a des choses qui ne se peuvent se traiter que par l'ironie, y compris d'ailleurs le, enfin, saint Augustin fait allusion, entre autres, à Dieu lui-même, hein, qui s'est moqué d'Adam, hein. Mmh. Après la faute, il a dit « Ah, c'est, voici l'homme qui veut devenir comme l'un d'entre nous
oui. ».
C'était de l'ironie et c'était tout ce qu'Adam avait mérité.
Ben, moi, je suis convaincu depuis fort longtemps que le bon Dieu a un sens de l'humour extrêmement aiguisé. L'exemple que je cite toujours, c'est celui des concombres de mer. Si vous avez déjà vu des concombres de mer, vous comprenez que le bon Dieu nous dit « Écoutez, moi, voilà ce que je suis capable de faire. Essayez donc d'en faire autant, puis on en reparlera ». C'est tout. autre nouvelle.
Alors, vous savez, Assise, vous vous souvenez de ce qui s'est passé à Assise le 27 octobre 1986. Eh bien, depuis ce temps-là, ça va mal. Les choses s'écroulent, les murs s'écroulent, et il y a, tout récemment, l'État italien a envoyé un camion pour contrôler les séismes sous Assise. Et alors, on a détecté sous la basilique où s'est passé le scandale d'Assise, on a détecté des secousses deux fois plus fortes que dans l'environnement proche. Et comme il y a déjà quelque temps que l'on fait des études et des analyses sur ce terrain, on sait que 1000 microséismes se produisent chaque année juste à l'endroit de la basilique.
Et moi, à leur place, je me commencerai à préparer une petite cérémonie propitiatoire. C'est comme ça qu'on dit, il serait temps, parce
oui,
que
oui,
bientôt ils vont se retrouver en petite culotte au milieu d'un champ de ruines, ces gens-là.
Il faut demander au père Argouache.
Oui. Je crois qu'il a d'autres tâches. Sur place, là-bas, il doit y avoir, parmi les franciscains, il doit y en avoir encore deux ou trois qui croient en Dieu. Il pourrait peut-être organiser ça. Je ne sais pas, on peut toujours espérer. C'est une nouvelle comme je les aime, ça.
Oui, oui, oui.
Et vous en avez peut-être une troisième, alors, Eusdem Farinae, puisqu'on on est en Italie.
Eusdem Farinae. Vous savez que c'est un mystère pour personne, les ordinations anglicanes. Bon, je les traite comme une victoire du féminisme. Et ce féminisme militant est de plus en plus envahissant. On trouve même que, à Rome, qu'il fait des ravages dans les couvents. Et les couvents de femmes en particulier, et aussi dans les couvents d'hommes.
Ça, c'est plus embêtant que le féminisme fasse des ravages dans les couvents d'hommes. Dans les couvents de femmes, on peut le comprendre, mais dans les couvents d'hommes, il va falloir que vous nous donniez une explication, quand même.
Non, c'est qu'il y a de plus en plus de rapports, si vous voulez, de relations entre les moniales et les moines. Et alors, on sait aussi que dans les séminaires, maintenant, on introduit des femmes, comme non pas comme directeurs de conscience, mais comme formatrices sur le plan sensibilité et autres des futurs prêtres.
Oui.
Donc, il y a là un problème, c'est certain, envahissant. Et alors, je découvre...
Il faut peut-être quand même prévenir les prêtres que dans leur carrière, ils vont être amenés à rencontrer des femmes, de toute façon.
Oui, mais jusqu'ici... Il y avait toute une série de règles qui évitaient, des règles de bonne mœurs, de civilité, qui évitaient justement qu'il n'aille trop loin, qu'il ne se laisse envahir et séduire à l'occasion. Toutes choses qui sont à peu près disparues. Alors, la science s'y met, Et on découvre maintenant que l'homme, que la femme n'est pas l'égale de l'homme, elle lui est supérieure. Et c'est ainsi que des savants
ont éclaté
que ce n'est pas Adam, la Bible s'est trompée, ce n'est pas Ève qui est venue de la côte d'Adam, c'est le contraire.
Voilà.
Et alors ils donnent des raisons scientifiques qui me laissent songeur. Entre autres que dans le cerveau, le corps calleux, vous savez, qui unit les deux hémisphères.
Ah, ce fameux corps calleux.
Le corps calleux est plus développé chez les femmes.
Oui.
Or, à la naissance, on l'a vu sur les animaux, il est pareil chez les mâles et les femelles. Donc, ce sont les hormones masculines qui freinent le développement postérieur de ce corps calleux. Autrement dit, il y a un avantage pour les femmes, d'où, et c'est de là que viendrait leur fameuse intuition et leur rapidité de penser. Alors, il y a la longévité, bien sûr, il y a les rêves, voilà un argument auquel je n'aurais pas songé, les rêves des femmes sont plus longs, plus complexes, plus riches en particularités, en situations, en personnages et en émotions. Alors, il y a l'embonpoint. Alors, on explique que chez les femmes, le rapport graisse-muscle est légèrement en faveur de la première partie du rapport, c'est-à-dire de la graisse. Mais cela, ça s'arrangera et la femme sera aussi forte physiquement que l'homme, et voici la citation, quand elle se sera libérée du frein mental qui encore aujourd'hui l'empêche de tirer profit de toute la masse musculaire qu'elle possède.
Tout ça, c'est une histoire de frein mental, oui, je m'en doutais. Ben écoutez,
voilà. Alors nous avons
ces gens-là sont
bien
très sérieux. Oui, oui. Non, mais moi j'ai toujours pensé tout ça. Ça fait longtemps que je pense que la femme est supérieure à l'homme. C'est pour ça d'ailleurs que je préfère la femme à l'homme en général.
Oui.
Vous voyez, je quand même. J'ai appris aujourd'hui dans Valeurs Actuelles qu'un livre venait de paraître, dont il me semble quand même qu'il faudrait se le procurer rapidement, ou en tout cas il faudrait donner aux auteurs de ce livre, qui sont deux, des explications complémentaires. Parce qu'apparemment, il y a deux ou trois détails, si j'ose dire, qui leur ont échappé. Le livre est intitulé « L'homme et la femme, l'insaisissable différence ». Voyez-vous ? Donc, peut-être que vous pourriez leur envoyer un exemplaire de votre lettre.
Oui, c'est une très bonne
idée. Lettre. Merci, mon cher Marc. Alors, je rappelle qu'on peut se procurer Iota Unum en écrivant en boîte postale 52 78 Saint-Germain-en-Laye, 78 101. Saint-Germain-en-Laye-Cédex. À bientôt.
À bientôt, Serge.
On écoute un tout petit peu de musique et ensuite on parle du pèlerinage de Reims.
Sein ist es, was wir sind. Er gibt nur den Genuss, doch dass uns allein nur seine Schätze laben. Sie sind der Probestein, wodurch er Macht bekannt, dass er der Armut auch die Not nur ausgespendet. Als er mit milder Hand was jener nötig ist, uns reichlich zugewendet. Wir sollen ihm für sein gelehntes Gut die Zinsen nicht in seine Scheuren bringen. Barmherzigkeit, die auf dem Nächsten ruht, kann mir als alle Kraft ihm an das Herz dringen.
Arrête la musique au moment où ça commence à devenir bien. Parce qu'avant, c'était un petit peu ennuyeux, non ? Monsieur Lolo, etc. Plusieurs questions, mon père. Alors, je les lis. Comment vous organisez-vous pour dire la messe ? Demande un auditeur. Avez-vous des prêtres qui viennent de l'extérieur ? Les messes sont selon quel rite sont dites les messes ?
Elles sont dites selon le rite tridentin. Et les messes sont dites tous les dimanches. Il y a une grande messe tous les dimanches à 10h. L'avantage pour cette année, pour moi, c'est qu'il y a maintenant le père Alain Hochmiller qui a été ordonné. Et donc nous sommes deux prêtres à dire la messe. Et c'est magnifique. Et cette liturgie tridentine qu'affectionnait particulièrement le père Revet, toujours restée notre liturgie. Et tous nos enfants chantent la messe et servent cette messe. Il y a la compagnie Saint-Tarcissus avec tous ses servants de messe, avec tous ses grades. Et je crois qu'aussi ça élève l'âme des enfants de façon extraordinaire. Dans l'éducation de Riomont, vous le savez, l'éducation du beau, et on prie sur de la beauté, l'éducation à la liturgie tridentine, cette messe est magnifique. Et quand on fait rentrer nos enfants dans le mystère de cette messe, je les sens, quand je suis à l'hôtel, très très près de moi, derrière, puisque je regarde le Christ.
Surtout dans cette chapelle qui est vraiment un lieu magnifique. J'allais dire magique, mais c'est pas adapté du tout. Non, mais il y a une magie positive.
On peut dire qu'il y a une sorte de mystique de la chapelle, parce que le père Revet a fait ça avec tout son amour du Moyen-Âge, et puis par un système d'éclairage, de très belles choses qu'il a su trouver, comme cette fenêtre romane qui est dans le cœur, qui enserre le tabernacle. Je crois qu'elle peut laisser personne indifférent. J'ai vu des gens qui étaient athées avoir les larmes aux yeux dans cette chapelle.
Vous savez, on est à Riomont, je dis toujours ça, c'est vrai, on est dans un décor, on est dans un livre de Pierre Joubert. Enfin, dans l'atmosphère, il y a d'ailleurs ces dessins un peu partout, mais c'est exactement ça. C'est cette espèce de chevalerie adolescente. C'est vraiment un endroit merveilleux. Et une auditrice nous dit, vous avez parlé de bus pour aller le 25 juin à la fête de la Saint-Jean. Comment peut-on joindre les organisateurs de ces voyages ?
Ouais, je crois qu'on va envoyer des invitations. L'idéal, ça serait de nous écrire directement au village d'enfants de Riomont pour qu'on donne les adresses, parce que tout ça est en train de se mettre en place maintenant et c'est pas encore totalement fait.
Alors, on en profite pour rappeler l'adresse. C'est Notre-Dame au village d'enfants de Riomont.
Village d'enfants de Riomont, boîte postale 28 62 801 Liévin Cedex. Au téléphone, on peut nous joindre aussi au 21 28 32 09 en faisant le 16 évidemment si on téléphone de Paris.
21, 28, 32, 09. Voilà. Et puis, un auditeur demande, pour la cérémonie d'hommage aux jeunes soldats morts pour la France, êtes-vous en relation avec l'Association nationale Le Souvenir français ?
Non.
Qui est fondée pour veiller sur les sépultures des jeunes soldats.
Non, je ne suis pas en relation avec le Souvenir français. J'en ai d'ailleurs parlé un petit peu la dernière fois, en parlant à Radio Courtoisie, pour dire qu'on avait été traité de tous les noms, d'ailleurs, par le président du Souvenir français. Alors, ça m'encourage pas du tout à avoir des relations avec eux. À partir du moment où on nous en dit que Riomont, c'était des fascistes et l'extrême droite et tout, ce qui nous va droit au cœur, d'ailleurs, et on les remercie de nous dire tous ces mots gentils.
Bien sûr. Puis c'est utile, en plus, dans le combat. Ces gens qui sont censés veiller sur les sépultures de soldats, parmi lesquels il y avait peut-être des garçons d'extrême droite, allez savoir, il y en a peut-être qui sont morts à la guerre, on sait pas.
Tout ça parce qu'une délégation de Riomont était en uniforme impeccable, au monument canadien, le commandeur canadien monsieur Chamberlain, qui est un type formidable, nous avait invités. Nos garçons étaient au premier rang, mais malheureusement il pleuvinait et il y avait un petit froid, et ces pauvres garçons en culotte courte, évidemment, c'était inadmissible en 1994,
à l'endroit où
où d'autres sont morts gelés.
Oui. Enfin voilà. Bon, ben donc, Souvenir français, on n'en parlera plus. C'est pas passé.
À moins qu'ils s'excusent et qu'ils m'écrivent. À ce moment-là, ce serait différent.
Ça m'étonnerait quand même.
Je serais content d'avoir un message du Souvenir français pour me dire que c'est pas vrai et qu'on a mal entendu.
Ah, ben, ça, c'est possible aussi. Il peut y avoir un malentendu, comme on dit dans la langue de bois. Pascal Théry, alors, ce pèlerinage à Reims, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord ce qui l'a inspiré, et puis ensuite ce qu'il a mis en route? C'est pas quelque chose qui est né cette année, ça.
Oui, nous en sommes au troisième pèlerinage que nous préparons cette année. Je vais tout de suite vous donner les dates, ça sera chose faite. 22, 23, 24 avril 1994. Oui, alors pourquoi ce pèlerinage? Serge Beckett nous disait tout à l'heure, pour, en parlant de son fils, qu'il avait un besoin de revenir passer quelque temps à Riaumont pour faire une espèce de nettoyage, pour faire une purification. Ce pèlerinage que nous souhaitons, ce que nous voulons faire, c'est ni plus ni moins la même chose pour la France, c'est-à-dire que la France revienne un peu à ses origines, revienne à sa jeunesse, à son enfance, et qu'elle fasse à son tour elle-même une purification. C'est-à-dire la vocation de la France, pourquoi elle a été créée selon la volonté de Saint-Rémy, c'était justement servir le Christ et servir l'Église catholique. C'est une vocation que la France a servi fidèlement pendant de longs siècles, pendant plus de 10 siècles, pendant presque 15 siècles. Notre époque aujourd'hui n'est qu'une parenthèse, et nous voulons rappeler que la vocation éternelle de la France, à laquelle elle reviendra, nous en sommes sûrs, c'est justement cette pureté et cet apostolat à travers le monde. Voilà un petit peu l'esprit, le fondement de ce pèlerinage.
Alors, au début, la naissance du pèlerinage, c'est un noyau d'amis qui décide de faire ça, ou comment ça s'est passé?
Oui, c'est alors les pèlerinages se développent à notre époque, c'est une très bonne chose. Il y en a qui vont à Chartres et il y en a qui viennent de Chartres. La première idée, c'était pourquoi pas Reims, tout bêtement. L'ouest de Paris commence à être fort connu, l'est est moins connu.
Encombré pendant le week-end de la Pentecôte.
Donc pourquoi pas Reims, premièrement. Deuxièmement, il y a quand même, en toile de fond, ce 15e centenaire qui approche. C'est dans deux ans ça passe vite. Et une idée est apparue, c'est que cette lumière que la Providence met sur nos pas, à une époque où on se demande vraiment où va la France, vous en entendez assez parler sur cette radio, à une époque où on se demande où elle va, la Providence met sur notre chemin une lumière, ou une petite lumière, une lumière bien pâle, qui est ce 15e centenaire. Alors, 1500 ans, 1500 ans, c'est, n'arrive quand même pas tous les ans.
On est tous les ans au 15e centenaire de quelque chose, mais,
oui,
pas toujours du baptême.
Mais pas toujours de la création et des origines de notre pays. Donc, c'est une petite lumière bien pâle. Et nous nous sommes dit, cette lumière, il ne faut pas qu'elle passe inaperçue, il faut qu'elle brille et qu'elle se répande sur un plus grand nombre. Et nous essaierons simplement, avec la grâce de Dieu, d'être une espèce de parabole, une parabole réfléchissante qui projettera cette lumière auprès d'un plus grand nombre de Français. Donc, nous nous sommes mis en route il y a 3 ans. Il y a ce pèlerinage que nous souhaitons important en 1996. Rien de grand ne se fait sans le temps, sans la durée. Ce n'est pas en janvier 96 qu'il faudra se demander ce que l'on fait. Il vaut mieux l'avoir préparé des années à l'avance. Il faut préparer la spiritualité, il faut l'approfondir. Et puis il y a aussi toute une question matérielle, d'équipe et de direction à mettre en place. Voilà pourquoi l'idée nous est venue de commencer à marcher il y a 3 années maintenant.
Alors, si vous voulez, parlons de l'aspect technique, parce qu'un pèlerinage, on s'en est aperçu avec les pèlerinages de Chartres, c'est un énorme barnum, c'est des centaines de voitures, des milliers de tonnes de matériel, de nourriture, des milliers de gens qui marchent dans tous les sens. Ça vous a pas un peu effrayé, ça? Parce qu'au début, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était un groupe de copains qui partaient à une douzaine, une vingtaine. Bon, ça va, on peut s'arranger, on s'arrête dans un bistrot quand on a envie de faire pipi, et puis ça fait la rue Michel. Mais quand il y a 1000 personnes, il n'est pas question de faire défiler les 1000 personnes dans le bistrot. Alors, il y a toute une...
Oui, bien sûr.
Toute une intendance. Est-ce qu'elle suit, l'intendance, là?
Oui, alors, pour l'instant, elle a très bien suivi. Pour cette année, elle est bien en place. C'est sûr que les années qui viennent, bon, pour l'instant, nous sommes quelques chapitres sur la route de Reims, la logistique suit facilement, nous avons du matériel à prêter d'autres associations. Bon, pour ce 3e pèlerinage, tout est mis en place, Je pense qu'il ne manquera ni un piquet de tente, ni une sardine, ni un tuyau d'eau. Pour l'instant, ça va. C'est sûr que les années à venir, nous nous attendons à accueillir beaucoup plus de pèlerins. Le pèlerinage 1995, nous le préparons dès cet été. Un an, ça ne sera pas de trop. Nous aurons presque un an comme cela. Bon, déjà, nous essaierons de faire en sorte... La grande année à ne pas rater, c'est 1996, bien sûr. 1996, où déjà un certain nombre de gens ou d'associations nous ont dit qu'ils voulaient venir encore constituer, c'est-à-dire avec armes et bagages. Alors, nous accueillerons les pèlerins. Nous accueillerons aussi donc les gens, le matériel et des équipes logistiques qui sont déjà rodées lors d'autres pèlerinages. Et pour finir, comme le montre le Père Argouache, notre dernière arme par-dessus tout, c'est le chapelet et c'est l'aide de Saint-Rémy qui jusqu'à maintenant, dans tous nos problèmes matériels, nous a bien aidés.
Ça se passe, vous avez donné les dates, vous voulez les rappeler s'il vous plaît,
parce que j'ai 22, 23, 24 avril. Alors nous partons un vendredi matin, ce n'est pas un jour férié, mais c'est un jour de vacances pour un certain nombre de jeunes, donc une bonne centaine de kilomètres sur 3 jours. Ceux qui ne sont libres que les 2 jours de samedi et dimanche peuvent nous rejoindre facilement le samedi matin ou vendredi soir en gare de Soissons. Soissons est sur notre route.
C'est pas un pèlerinage de paresseux, hein. Il y a quand même, c'est plus long. Il y a 30 km de plus que Chartres.
Pas tout à fait, presque. Ouais. Bon.
C'est-à-dire qu'il faut vous imaginer que quand vous êtes à Chartres, quelqu'un vous dit, et on repart demain matin pour faire 30 km de plus. Alors si vous avez envie, ben.
Non, voilà. C'est un petit peu exagéré. Non, en fait, c'est tout à fait la difficulté du pèlerinage de Chartres. C'est du même ordre. C'est pas plus éprouvant.
Ah ben non, une fois qu'on est parti, c'est fini. On peut continuer indéfiniment. On peut marcher 30 km par jour jusqu'à la fin de nos jours. La question est de savoir quand va intervenir la fin de ces jours. Ça peut arriver plus rapidement, du fait. Non, mais... Alors, je sais pas, Philippe Varlet, qui a l'air de savoir tout ça par cœur, me dit Paris-Reims, 156 km.
Oui, mais attention, nous n'avons pas précisé le départ, c'est Compiègne.
Ah, d'accord.
Nous partons de Compiègne, nous allons à Reims, entre les deux, 110 km. Donc, vous voyez, c'est l'équivalent de Chartres. 110 km. Alors, pourquoi Compiègne? Par ce départ et cette arrivée, nous associons ainsi Sainte-Jeanne d'Arc est le début de son martyr, puisque nous partons de l'endroit même où Sainte-Jeanne d'Arc a été capturée. Une statue de Sainte-Jeanne d'Arc montée commémore cet événement. La Providence veut qu'en plus ce soit juste à côté de la gare de Compiègne, ce qui facilite les choses. Donc nous partons de Compiègne, nous allons ainsi de Sainte-Jeanne d'Arc à Saint-Rémy. Nous arrivons à Reims, nous arrivons au baptistère de Reims qui se trouve, le baptistère du 5e siècle qui se trouve sous la cathédrale de Reims. Et nous avons la messe dans la basilique Saint-Rémy où se trouve le reliquaire de Saint-Rémy. Donc ainsi, nous allons de Sainte-Jeanne d'Arc à Saint-Rémy, nous associons celui qui est à l'origine de notre pays, Saint-Rémy, à celle qui, presque dix siècles après, a restauré ce pays magnifiquement, montrant ainsi que dans les pires épreuves, rien n'était perdu et qu'avec la grâce de Dieu, tout est possible.
Alors, je voudrais me tourner, puisque vous évoquez Jeanne d'Arc, vers le Père Argouache. Vous n'avez pas vu le film, mon père, encore?
Non, mais il paraît que c'est fabuleux.
Je n'en entends dire que du bien, oui. Par des gens bien.
On m'a proposé de le faire passer à Riomont sur écran géant.
Oh.
Mais il paraît que ça dure 7 heures.
Mais oui, il y a deux épisodes de 3 heures, voilà. 20, quelque chose comme ça.
Alors
oui.
On m'a proposé d'en faire une des activités de Riomont et j'ai réfléchi. Bon, c'est vrai que...
Alors on viendra le voir, là. Parce que non, moi j'ai envie de le voir, mais je dois dire que l'idée d'aller me coller dans une salle de cinéma, peut-être avec des gens qui... Ça me révulse. Mais alors si, c'est à Riomont, 2 heures de route, et on va aller
c'est
voir...
C'est un ami qui m'en a parlé tout à l'heure, et qui connaît très bien le réalisateur, qui rêve de le présenter sur écran géant dans un lieu, mais
idée,
on peut pas concurrencer le feu de la Saint-Jean, ça sera peut-être pour septembre. Mais il faut qu'il fasse bon, si c'est dehors.
Bien, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, les aspects techniques, vous devez nous donner au moins un numéro de téléphone pour que les gens puissent, les auditeurs puissent appeler.
Oui.
Pour avoir tous les renseignements utiles.
Alors, un numéro de téléphone en région parisienne, le 34 75 24 38. Vous pouvez aussi téléphoner à la Sainte-Croix de Riomont, vous avez le numéro de téléphone tout à l'heure.
On va redonner ces deux numéros parce que c'est important. Alors, le Pélé.
Pèlerinage Saint-Rémy, donc le 34 75.
Le pèlerinage de Saint-Rémy à Reims, hein. C'est pas un pèlerinage à Saint-Rémy. Ni non. À Saint-Rémy-les-Chevreuses, ni à Saint-Rémy de Provence.
Non.
Donc, pèlerinage de Reims.
Pèlerinage de Reims.
On appelle au
34 75 24 38 en région parisienne.
Mm-hmm. Et
le numéro de Riomont, le 21 28 32 09.
32 09. Voilà. Merci mon père, merci de votre visite. On a toujours beaucoup beaucoup de plaisir à vous entendre. Enfin, il ne faut pas trop vous faire de compliments parce que vous détestez ça, mais après tout, chacun sa croix. Hein.
Merci beaucoup.
Merci à vous de nous avoir présenté ce pèlerinage. Et puis on en reparlera d'ici là. On l'annoncera abondamment. Et puis on y fera certainement un tour. Je vous promets pas de marcher pendant 156 kilomètres, même pendant 106 kilomètres.
Non, 106. Mais... je redresse tout de suite parce que sinon les pèlerins vont dire qu'il y a tromperie sur la marchandise.
Non, il y a 100 kilomètres à faire pendant 3 jours. Donc je vous promets pas d'y être, mais voilà. Pendant les 3 jours, mais j'irai vous voir.
Il y a alors un rendez-vous important donc Compiègne pour le départ, Soissons samedi matin, et puis la grand-messe dans la basilique Saint-Rémy. À Reims, à 15h.
Qui est dans le rite tridentin, et évidemment. J'ai eu beaucoup d'émotions à célébrer cette messe la dernière fois, dans ce lieu consacré. C'est vraiment merveilleux, c'est une grâce aussi du bon Dieu. Merci.
Merci, mon père. Chère madame, si vous voulez prendre place. Je vous avais donné un petit papier à remplir, mais voilà. Tenez, asseyez-vous, je vous en prie. Vous savez, on est tellement nombreux dans le studio... que on finit par on est obligé de se bousculer pour se procurer des places. Alors je reçois maintenant Madame Angélique Baraton.
C'est exact.
Qui est avec quelques autres l'auteur d'un livre intitulé Hommes et traditions populaires en Poitou, Charente et Vendée. Alors les quelques autres sont Ogam Bonin, Philippe Randa. D'illustre mémoire, et Xavier Chenceau, d'illustre mémoire aussi. C'est une belle équipe pour faire un livre.
Tout à fait.
Hein,
tout à fait.
Alors, c'est paru ce livre aux éditions
Martel
à Amiens.
Amiens, oui.
C'est un endroit idéal, Amiens, pour éditer un livre sur
Poitou, Charente et Vendée. Les éditions Martel se sont spécialisées dans les livres régionaux. Et ce n'est pas le premier de la série, ce ne sera pas non plus le dernier, j'espère.
Alors ce que je veux dire avant tout, avant de vous donner la parole, c'est que ce livre est une pure merveille. Qu'est-ce que c'est ? C'est un album de dévotion, mais pas, c'est pas un album, je veux dire, c'est pas un livre de religion, c'est un album de dévotion à des racines.
Absolument.
Angélique Baraton est de là-bas. Elle a ses racines plongées au plus profond dans cette terre. Et on sent que pendant des années, elle a collationné, collecté tout ce qu'elle pouvait ramasser de souvenirs de famille, de souvenirs de village, de souvenirs de voisins. Et tout ça a fini par donner un livre sur les véritables traditions populaires, alors dans le plus beau sens des deux mots, des traditions et de la tradition, et de populaire, qui est un chef-d'œuvre patrimonial.
Mais
c'est-à-dire,
si, vous
c'est...
me faites rougir
non,
en
c'est,
compliment.
Ce n'est pas des compliments,
partagez
c'est l'expression...
avec les autres auteurs, bien sûr.
C'est l'expression d'un sentiment sincère. Je dois dire que on aborde ce genre de livre toujours avec un petit peu de défiance, parce qu'on se dit, oh bon, on va encore nous vendre de la salade régionaliste. Et pas du tout, il n'y a pas ça une seule seconde, c'est merveilleux d'amour et d'intelligence. Alors, je crois, il faut lire ce livre, il faut se le procurer. On essaiera de donner des adresses. Je pense qu'on doit le trouver chez Duquesne, qu'on doit le trouver dans toutes les bonnes maisons.
Je pense qu'il va être en vente aussi chez Edifra Livre, qui est...
Chez Diffrali, voilà.
Oui, avec présent.
Voilà. Mais ce que j'aimerais bien, c'est que... Comme ça, c'est pas... Bon, les gens vont voir ce qu'il y a dans le livre hein, quand ils l'auront acheté. Donc, c'est pas la peine de leur présenter le livre avant. Enfin, de leur... il suffit de leur dire que c'est une merveille. On en parlera quand même un peu du contenu. Mais ce que j'aimerais, c'est que vous m'expliquiez la genèse de ce livre. Comment il est né et comment il est venu au monde.
L'éditeur que je connaissais déjà, puisque j'avais travaillé avec lui, m'a demandé si ça m'intéressait de faire... Donc un livre sur le Poitou, Charente, Vendée, avec trois autres personnes, donc je connaissais déjà. Et puis nous avons chacun, selon nos connaissances, partagé ce travail. Et la partie qui m'incombe me paraissait, moi, la plus intéressante, c'est-à-dire que ça allait de la naissance... du berceau à la tombe, en passant par la vie quotidienne, par les fêtes, par la cuisine, les recettes régionales, les histoires en patois.
Ça, c'est très amusant. C'est très, très rigolo, les petits dessins avec les bulles ou les légendes en patois. Vous le parlez, ce patois?
Tout à
vous
fait.
Alors, est-ce que vous pourriez nous dire une petite chose? Et je vais vous poser une question, vous allez répondre en patois. Est-ce que ça a été difficile à faire, ce livre?
Ça n'a...
Allez, on
en
y va.
Patois, je ne pourrais pas vous dire, mais... Oh, là, a été bien facile pour moi.
Voilà, vous avez vu? Vous avez fini par y arriver.
Et avec l'accent, si vous voulez.
C'est l'accent d'où, ça, alors?
Des Deux-Sèvres.
L'accent des Deux-Sèvres.
Mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents sont originaires des Deux-Sèvres. Et j'ai eu la chance d'entendre parler le patois avec mon grand-père, et ça m'amusait beaucoup. Et j'ai repris enfin, beaucoup d'histoires qui m'avaient été racontées par mes parents et par la famille. Et beaucoup de ces histoires sont authentiques.
Alors ce qui est fascinant, c'est la précision avec laquelle vous décrivez la vie au quotidien. C'est-à-dire on s'aperçoit qu'on est vraiment au cœur d'une civilisation. C'est-à-dire que chaque geste, chaque instant de la vie, chaque moment de la journée est codifié, c'est mis en place. Il y a un vêtement qu'on doit porter, il y a des choses qu'on doit dire, il y a des attitudes qu'on doit avoir. Il y a un chapitre sur le deuil qui est extraordinaire, où on vous expliquait exactement les règles du deuil. C'est-à-dire qu'en regardant une femme, on sait instantanément dans cette civilisation-là si elle a perdu son père, sa mère, sa sœur, son frère, enfant, depuis combien de temps elle l'a perdu.
Oui, mais des jeunes filles, enfin, même des petites filles, portaient le deuil, bien sûr, d'un parent ou d'un grand-parent. Et si cette jeune fille avait un frère qui était mort à la guerre 14-18, par exemple, elle gardait le deuil. Ensuite, si elle perdait un oncle ou une tante, elle gardait le deuil. Et cela jusqu'à sa mort. Et beaucoup de femmes dans ces régions-là étaient en noir depuis la petite enfance jusqu'à leur mort.
Et l'impression qu'on a en lisant votre livre, c'est que, bon, c'est entendu, il s'agit des traditions en Poitou,
Charente
et Vendée. Mais on a l'impression que ce livre pourrait être fait pour n'importe quelle province traditionnelle, pour n'importe quelle province française.
Spécialement de l'Ouest.
Oui, mais je pense qu'on pourrait en Savoie faire la même chose. On retrouverait la même civilisation, mais les mêmes codes, les mêmes règles.
Certainement.
Alors, ça montre l'extraordinaire richesse de notre patrimoine, patrimoine humain. Je ne parle pas là des beaux immeubles, des belles maisons, des beaux monuments. Ça, c'est des choses intéressantes. Mais sur le plan humain, c'est prodigieux de voir à quel point une petite région de France, qui a un rôle important.
France profonde.
La vraie France profonde.
Qui a gardé une qualité de vie que l'on ne retrouve peut-être pas partout ailleurs.
Alors vous avez reçu, ça il faut le noter, de la part des institutions locales, un accueil bienveillant.
Ah oui, tout à fait. Et puis j'avais la chance en plus d'avoir de la famille dans la région de Niort. Une cousine en particulier qui, elle, a gardé beaucoup de souvenirs aussi, qui m'a aidée. Et ça, je l'en remercie parce qu'elle était vraiment extraordinaire.
Vous avez le bonjour et les félicitations des joyeux lurons de la vallée de la Charentonne.
Ah oui, mais ça c'est en Normandie.
Oui, alors vous voyez que votre...
Je sais d'où ça vient.
Voilà, ça s'étend.
Tout à fait.
Et est-ce que vous prévoyez de faire quelque chose sur la Normandie alors?
Je voudrais bien, mais c'est un énorme morceau. Et je voudrais bien trouver quelqu'un qui veuille m'aider. Malheureusement, j'ai posé une question un jour et puis on m'a dit « Oh là là, quel travail !» Alors bon.
Surtout quelle Normandie?
Quelle Normandie? C'est très grand la Normandie.
Voilà.
Enfin, je salue aussi les gens de la Charentonne. Au passage.
Ça leur fera plaisir. Je vous remercie d'être venu. Je ne peux pas dire mieux. Ce livre est un véritable joyau. Et il faut le lire, non pas comme... Je sais pas parce qu'on est Poitevin, Charentais ou Vendéen qu'il faut le lire. C'est parce qu'on est Français et qu'on découvre dans ce livre un coin de notre richesse. Et on pense, moi je ne peux pas cesser en le lisant, de penser à tout ce qu'on aurait pu faire sur d'autres régions de France. Alors je précise qu'il est... en plus, c'est un musée en livres, c'est-à-dire qu'il y a des centaines d'illustrations,
oui, beaucoup d'illustrations, oui.
Des photos de coiffes, il y a des documents de famille où on voit livret militaire, on voit enfin tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qui fait la vie d'une
des
province
de
et
prix.
D'une famille, les livres de prix, les petites cartes de blagues, les images de communion, les certificats de bonne conduite à l'école. Enfin, c'est vraiment un document. C'est un musée. On n'a pas besoin de s'embêter pour aller au musée. On n'a pas besoin de prendre sa voiture. On achète le livre. Alors, il s'appelle, je le rappelle...
Hommes et traditions populaires en Poitou, Charente et Vendée.
Alors, il est d'Angélique Baraton, Xavier Chénesseau, Ogam Bonin, Philippe Randa. Préface de Jean-Pierre Raffarin, qui est président... du conseil régional. Et il est paru aux éditions Martel, mais vous le trouverez chez Difra Livre. Difra Livre, c'est présent. Hein, c'est,
oui, mais enfin, on peut le commander aussi chez le libraire du coin.
Oui, on peut le commander chez le libraire, mais enfin, en général, nous, on recommande plutôt de s'adresser à des libraires purs et durs.
Je ne pense pas qu'il soit déjà chez Difra Livre.
Bon, eh ben, on attend un petit peu. Il y sera. Mais vraiment, c'est quelque chose de très réussi. Merci, Angélique Baraton. Et puis,
c'est moi qui vous remercie, Serge, d'avoir parlé avec tant de chaleur et de gentillesse.
Non, mais parce
ouvrage.
Que c'est vrai, voilà, je l'ai beaucoup aimé. Et peut-être qu'un jour, vous viendrez nous présenter quelque chose sur les Normandies.
Peut-être. Voir en attendant, j'ai un autre projet pour le Maine, Anjou et Touraine.
On n'en sort pas. Enfin, on remonte.
On remonte.
Merci. Est-ce qu'on écoute un petit peu de musique? Alors, il est là d'ailleurs. Erreur, moi je m'attendais à ce qu'on envoie, comme on dit en langage, dans le vilain langage technique, un exemple de ce que fait l'ensemble Jubilaté de Versailles. Et puis, comme je m'étais une fois de plus mal exprimé, j'ai pas été compris, c'est bien fait pour moi. Mais enfin, on a déjà entendu cet ensemble sur cette antenne plusieurs fois. Et je reçois ce soir Monsieur Hamon, qui en est le...
Disons le représentant vers l'extérieur, voilà, pour en parler un peu.
Alors, je vous reçois pour en parler, mais aussi pour une raison précise, c'est que je fais des grands gestes parce qu'on trouve pas en même temps le disque. Enfin, c'est l'horreur. Tout va mal. C'est parce que vous allez donner une série de récitals, de concerts.
Deux concerts. Oui, là, vous avez raison d'hésiter sur le mot, parce que c'est une notion à laquelle nous tenons. Ce sont des concerts, mais d'un genre particulier. Ce sont vraiment des concerts spirituels. Nous essayons, dans notre pratique depuis 2-3 ans, de renouer avec une certaine tradition d'adéquation entre la musique, les circonstances qui se prêtent à l'exécution de cette musique, et même l'esprit des musiques. À la différence de ce qui se fait, hélas, un peu partout.
Oui, c'est ça. C'est parce qu'il y a une espèce de tendance un peu grognonne dans la tradition, qui consiste à dire, faut pas utiliser les églises comme des salles de concert, ce qui est parfaitement vrai, mais il faut quand même rappeler qu'il y a des concerts spirituels, et là, en l'occurrence, c'est un concert pour le temps de carême.
Tout à fait ciblé pour le temps de carême.
Dont la diffusion pendant le temps de carême.
Qui est dans l'esprit de ce à quoi doit servir la musique, j'allais dire sacrée, parce que c'est le langage actuel, mais je dirais plutôt liturgique.
Alors, c'est... Bon, on va donner tout de suite les dates pour être débarrassé et puis pour ne pas oublier à la fin, comme ça m'arrive parfois.
Donc, le concert qui proposera le De Profondis de Michel Richard de Lalande et le Miserere des Jésuites de Marc-Antoine Charpentier se tiendra d'une part à Versailles le 23 mars en l'église Saint-Symphorien à 20h45 et ensuite le 25 mars à Paris en l'église de la Trinité à la même heure, 20h45.
Trinité le 25 mars. Et à Versailles, vous nous dites, c'est à quel endroit ?
C'est en l'église Saint-Symphorien.
Saint-Symphorien. D'accord. Alors cet ensemble Jubilaté, c'est un ensemble d'amateurs,
C'est un ensemble un peu composite de choristes amateurs, mais de bon niveau, avec notamment un certain nombre de jeunes éléments qui sont déjà élèves du conservatoire. Seconde caractéristique, c'est un ensemble de gens qui ont la pratique du chant choral grégorien polyphonique à travers la pratique liturgique hebdomadaire.
Je précise que quand j'ai dit amateur, il n'y avait aucune connotation péjorative.
Je ne le prends absolument pas comme cela, effectivement, mais il est... Alors, ça joigne un certain nombre de gens qui forment le noyau dur, en quelque sorte, de l'ensemble. Des gens qui ont une pratique dans d'autres ensembles, et puis surtout nous exécutons des œuvres avec un orchestre de professionnels, donc c'est quelque chose de bon niveau, c'est une osmose de bon niveau.
On va en entendre d'ailleurs un petit bout tout à l'heure.
Gens qui sont passionnés évidemment par la pratique du chant.
Quelle est l'origine de cet ensemble ? Comment est-il né ?
Alors, il est né il y a 2 ou 3 ans, à partir précisément de la préoccupation que vous évoquiez tout à l'heure. Nous avons été très, très frappés, par un certain nombre parmi nous, de voir qu'on n'avait jamais tant fait de musique dans des salles de spectacle ou dans des églises, mais que rarement cette musique avait été aussi déconnectée, en fait, de ses buts. D'une part, bien entendu, elle n'avait plus aucun rapport avec le calendrier. Enfin, j'ai entendu les 7 dernières paroles du Christ en plein automne. Et puis, deuxièmement, la caractéristique qui va avec l'autre, d'ailleurs, c'est que c'est une musique qui se professionnalise aux mains de gens qui, notamment, ont participé aux querelles entre les baroqueux, les traditionnels, etc. Donc, elle se professionnalise. Elle a une forme de perfection, mais de perfection un peu glacée, dans la mesure où vous avez affaire à des gens qui sont de très, très haut niveau, mais qui, au fond, ne savent absolument pas ce qu'ils chantent, en tout cas ce que représentent les textes sacrés qu'ils chantent, l'esprit de cette musique, par rapport à la civilisation qui l'a engendrée. Donc nous avons essayé de refaire à notre niveau modeste une pratique véritablement vivante de la musique, en relation soit avec des lieux architecturaux, des lieux culturels, ou des calendriers, notamment ce concert pour les temps de carême, qui en est une illustration, pour proposer véritablement une musique vivante, en montrant à des gens que la musique, ce n'est pas un appendice de la vie moderne, pressée, on se met un disque le soir, on court vite au concert. Nous essayons de replacer cette musique, et donc de lui donner, je crois, toute sa signification dans son contexte.
Est-ce que ça veut dire que vous priez en chantant ?
Oui, bien entendu. C'est un des, je crois, un début de tous les membres de l'ensemble. Alors, nous nous adressons à un public plus vaste qu'un public de convaincus par rapport à notre objet. Mais si nous avons réussi à leur montrer de l'intérieur les beautés d'une musique spirituelle et donc à faire un progrès de ce côté-là, nous en serons ravis. Mais tout est organisé de façon à ce qu'il y ait une véritable méditation autour des œuvres que nous proposons. L'année dernière notamment, nous avons été très surpris par le grand succès de nos 2 concerts, qui avaient évidemment un objet particulier, c'est le bicentenaire de la mort de Louis XVI. Et notamment le Requiem de Gilles a fait église pleine à la fois à Versailles et à Saint-Eustache à Paris. Donc oui, c'est encourageant.
Quel est l'âge moyen, si ça a un sens, ma question, je ne sais pas si vraiment elle a un sens.
C'est beaucoup moins significatif que l'âge moyen d'une équipe de football,
oui,
par définition, doit respecter certains critères.
La question que je voulais poser, c'est, est-ce que c'est plutôt très jeune ou plutôt un peu raciste?
C'est un ensemble jeune. C'est un ensemble jeune encadré d'éléments chevronnés. Ce qui quand même est la moindre des choses, parce qu'il faut quand même une certaine sûreté dans des œuvres difficiles. Mais la sûreté peut venir très tôt avec le brillant de jeunes éléments.
Alors, et vos concerts se produisent à quel rythme? Est-ce que vous préparez toute l'année? un ou deux concerts.
Disons qu'un concert annuel mobilise une préparation sous toutes ses formes, aussi bien au sens de l'intendance que des répétitions d'environ un semestre, parce que c'est un travail de découverte des œuvres, de compréhension des œuvres. Nous les expliquons aux choristes eux-mêmes, et avant même que les auditeurs en aient le bénéfice dans le programme. Donc c'est un travail lourd qui, évidemment, est préparé avec le plus grand soin, et je dois dire avec le plus grand enthousiasme, parce que c'est souvent très difficile de se mobiliser le soir de vie professionnelle ou estudiantine, et je crois que chacun le fait avec grand cœur.
C'est-à-dire que souvent ce qui se passe dans ce genre d'occurrence, c'est que on commence avec un grand enthousiasme, et puis au bout de 2-3 mois, on se dit « ce soir, tiens, je vais pas y aller ». On a tous connu ça dans les troupes de théâtre, dans des choses comme ça.
Il faut un effectif de départ nombreux, ce qui fait que les quelques défections naturelles au gré du calendrier sont finalement relativement compensées par un flux régulier de grands fidèles.
Je vais vous poser une question qui va vous paraître saugrenue et même indiscrète. Mais est-ce qu'il y a une extraction sociale particulière ?
À ma connaissance, pas véritablement. Il est vrai qu'il y a un noyau du cœur qui est versaillais, donc on ne sourit pas, ce sont des versaillais. Mais je vois autour de nous des gens venant de Paris, et j'ai l'impression que le seul dénominateur commun, c'est l'amour du chant. Et je dois dire que nous ne nous sommes jamais posé la question sous cet angle.
Alors, je rappelle que ces deux concerts se dérouleront à Versailles, à Saint-Symphorien, le 23 mars, et à la Trinité le 25 mars, à l'église de la Trinité, à 20h30, c'est
20h45
ça 20h45. Bien. Et puis, on va peut-être, même sûrement, écouter quelques mesures du Kyrie, de la messe Gaudium, c'est ça ? Non, c'est pas le Kyrie, c'est le Gloria.
Le
Kyrie de la messe Gaudium et in Domino pour le sacre de Louis XVI. Alors, bien évidemment,
composé par François, François Giroux, sous-maître de chapelle.
Oui, si vous m'aviez dit François, j'aurais été étonné. Je lui sais beaucoup de talent, mais pas celui-là. Bien sûr, ça n'a rien à voir sur le plan musical avec ce que vous allez interpréter à Versailles et à la Trinité, puisque c'est...
Non, la messe pour le sacre de Louis XVI était une musique jubilatoire.
Jubilatoire, alors que la musique... de Carême, le De Profondis, on n'est pas mort de rire quand même à la fin, il faut bien dire.
Non, pas vraiment.
Mais ça donnera une idée de la qualité de votre travail. Et j'indique d'ailleurs que ce que vous allez entendre dans quelques instants est un disque compact.
Très bien.
C'est bien, oui. Qu'on peut se procurer dans toutes les maisons.
Auprès de l'ensemble Jubilaté.
Voilà, auprès de l'ensemble Jubilaté, à la Trinité et à Versailles. Et même, vous avez peut-être une adresse à nous donner si on voulait le commander.
Oui, mais je ne l'ai pas en tête.
Ah, vous ne l'avez pas en tête.
Malheureusement, écoutez, je suis un très mauvais
oui, visiblement,
procureur.
Une question de vente.
Nous sommes de pur
On ne vous donnera pas la porterie. Hein. En tout cas, c'est un disque EJV9301 et vous pourrez le commander, voilà, ou à Versailles ou à la Trinité. Le 23 à Versailles à Saint-Symphorien, le 25 à Paris à la Trinité. À 20h40. On écoute un petit exemple de la qualité et du talent de cet ensemble Jubilaté de Versailles. Voilà, c'est très court pour vous donner l'envie d'en entendre plus. Et je répète, si vous voulez en entendre plus, si vous êtes Versaillais, c'est le 23 à Saint-Symphorien. Et si vous êtes communard, c'est le 25 à la Trinité. Eh bien, ma chère Victoria, nous allons pouvoir donner quelques petites annonces.
Je voudrais d'abord que vous fassiez un rappel, c'est l'adresse de Marc Dem qu'on m'a demandé au téléphone.
Oh bah, écoutez, alors franchement, ça doit être lui qui a téléphoné pour l'annonce.
Non, c'était une... non, c'était pas lui.
C'est boîte postale 50... ça y est, je l'ai perdu. Boîte postale 52, 78-101, Saint-Germain-en-Laye, Sedex.
Et puis dites-nous donc quelle était la musique entendue à 7h30. Je vous la laisse parce qu'elle n'est pas en français.
Bon, écoutez, je ne sais pas ce que c'était, mais en tout cas, c'est un extrait des cantates de Bach en BWV 39, 135 et 7.
Répétez, parce qu'il s'est plaint que vous alliez trop vite.
Les cantates de Bach.
Oui, ça c'est facile, hein. Et après le numéro.
BWV,
machin. BWV, oui, voulez-vous dire le numéro bien?
Alors, 39, 135 et 7, c'est les voilà. BWV. Et c'est interprété par le Bach Ensemble Helmut Rilling. C'est un disque sélection du Reader's Digest, non?
Je ne sais pas.
Je pense que c'est... Non, c'est pas un disque sélection, c'est un disque Hensler classique, voilà. C'est numéro 98-802, volume 40, mais bon, vous allez dans n'importe quel magasin.
Pour les amateurs.
Alors, pour les amateurs de harpe celtique,
C'est
un disque qui s'appelle Prestige de la harpe celtique, de Denise Mejwand. C'est le volume 1, et c'est un disque Arion, ARN 38-245. Voilà, si vous voulez rigoler, alors là, vraiment, c'est un truc que je vous recommande pour une surprise partie. C'est grand. Dans un tout autre ordre d'idées, alors, demain 17 mars à 19h15, 19 avenue des Ternes, 75-017, il n'y a que des 17 et des 19. Demain, 19h15, avenue des Ternes 19, dans le 17e, une conférence, une des conférences recherchées et passionnantes de M. l'abbé Serralda, l'homme roi dans le monde du créateur. Je vous rappelle que l'abbé Serralda était prêtre d'Alger et chapelain de Saint-Germain de Wagram. Donc demain à 19h15 à 19 avenue des Ternes. Après-demain, vendredi 18 mars à 18h à Notre-Dame-du-Lys, 7 rue Blomé, conférence débat Les métiers et corps avant et après 91 par Paulette et Pierrette, Paul et Pierrette, excusez-moi. Giraud de Coursac, historien, qui dédicaceront leurs ouvrages. À 20h, messe de Saint-Pie-V, célébrée par Monsieur l'abbé de Linares, que je salue. Et à 21h, buffet, rencontre amicale, librairie, dédicace avec Monsieur Bertrand, Château-Jaubert, Dutrieux, Mouton, Monsieur de Poncin, André Figueras, Monsieur Guidemin, et la participation d'associations et de groupes comme l'Actualité Rurale, l'Association Médicale Saint-Côme et Damiens, l'Action Familiale et Scolaire, le Cartel Corporatiste, le Corporatisme Français, le Paysan Biologique, Fragments, la Lettre de Recherche Créditiste, Sauvegarde et Promotion des Métiers, Participation aux frais sur place, c'est-à-dire que quand vous sortez, c'est entrée gratuite et sortie payante. Voilà. Le lendemain de ce vendredi, c'est le 19 mars et le 20 mars à la Sorbonne, grand colloque universitaire international sur la Bulgarie, le Danube, les Balkans et la mer Noire. C'est organisé par la Société française pour la couronne de Bulgarie. Le même jour, samedi 19 mars et dimanche 20 mars, à 20h30, avec une matinée à 15h le dimanche, on me dit que vous pourrez voir un spectacle merveilleux donné par une petite sœur du père de Foucault au profit de son couvent. Il s'agit d'une représentation d'un théâtre d'ombre sur le thème du livre de Job. Ça se passe à la Maison Ouverte, 17 rue Hoche à Montreuil, mairie de Montreuil. Donc samedi et dimanche à 20h30 et dimanche également à 15h. Il paraît que c'est un spectacle tout à fait remarquable. La Fédération de Paris, ça se passe le mardi 22 mars 1994. Fédération de Paris du Front National organise sous la présidence de Martine Le Hideux, que j'embrasse, un dîner-débat avec Bruno Maigret, que je n'embrasse pas, évidemment, à l'espace Voltaire. Vous pouvez le faire si vous voulez, mais moi non.
J'allais le faire, mais je n'ose pas.
Espace Voltaire, 4 rue Camille Desmoulins, 75-011 Paris. Si vous voulez des renseignements plus détaillés, il faut téléphoner au 45 22 25 91. le jeudi 24 mars 94 à 20h30. Vous avez vu que j'ai tout mis dans l'ordre, hein. Je suis quand même incroyable.
Oui, c'est assez admirable, je dois dire.
Moi-même, je m'étonne.
Un peu long, mais admirable.
Jeudi 24 mars 94 à 20h30, au centre des congrès, 13 avenue Albert Sorel à Caen. Enfin, je dis ça pour nos auditeurs de Caen, 100.6 ou 100,6 ou comme vous voulez.
Pas de virgule, pas de point. 100 MHz 6.
D'accord, 100 MHz 6. Conférence de Rénal Sécher, historien, sur le thème « La Vendée, mémoire et génocide », jeudi 24 mars 1994 à 20h30. En ce moment même et jusqu'au 16 avril, vous pouvez voir à l'espace GMAP, 116 quai de GMAP, 75-010 Paris, métro Jacques Bonsergent, l'irrésistible pièce d'Eugène Labiche en un acte et 8 tableaux qui s'appelle « L'affaire de la rue Lourcine », affaire criminelle inextricable et qui étant rendue encore plus compliquée par le camarade Labiche. Je vais aller voir ça très prochainement, moi, parce que Labiche, ça ne se rate pas. Et puis, nous prenons date d'ores et déjà pour le dimanche 10 avril 1994, où vous pourrez assister à Paris, au Palais de la Mutualité, aux 14e Journée Nationale d'Amitié Française, dont le thème sera « La France, nation submergée, la nécessaire reconquête », avec plein de gens intéressants, dont moi d'ailleurs.
Oui, c'est vrai. C'est...
Je ne crains pas de le dire. Et puis, le même jour, dimanche de la miséricorde divine à Osny, le 10 avril 1994, je vous rappelle que ça a été demandé à Sœur Faustine, instamment, le Seigneur lui a demandé que ce dimanche de la Quasimodo soit particulièrement célébré en hommage à la miséricorde du Christ. Alors, à 8h45, rassemblement place Saint-Sulpice, départ pour Osny, ou Oni, je ne sais pas comment dire, à 10h, procession de l'icône bénite par Pie XII et de l'image de la bienheureuse Sœur Faustine, à 10h30, concélébration eucharistique par Monseigneur Jordan, à 12h, déjeuner campagnard, à 15h, heure du Golgotha, heure sainte, à 16h, chemin de croix à Calvaire du Parc, ou chapelet à la grotte de Lourdes, à 17h, clôture de la journée et départ, 19h, arrivée place Saint-Sulpice. Et puis, naturellement, je vous parlerai très prochainement des pèlerinages de Chartres. Et je vous signale, pour finir, que depuis le 1er mars 1994, l'extraordinaire Alain Vanzo, je crois qu'on peut dire le mot, de l'Opéra, a ouvert un cours de chant en studio Salle Gaveau, rue de la Boétie, 75-008 Paris, pose et technique de la voix, tiens, il faut bien de me prendre comme élève, air du répertoire avec un accompagnateur, ça se passe une semaine sur deux, pour quand même apprendre à chanter avec Alain Vanzo. Le téléphone 43 05 05 47. À vous.
Vous avez terminé, vous êtes sûr?
J'aurais dû vous en donner, mais j'ai tout gardé pour moi.
Ah, on n'est pas idée, non.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech, assisté de Victoria, une rediffusion du 16 mars 1994. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75-016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez la cassette pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Vous pouvez demander un CD-ROM au lieu des cassettes pour le même prix. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse. Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75-016 Paris.